black magic. Don't you give me your black magic. Don't you give me your black magic. Don't you give me black magic. Don't you give me black magic. Hello les amis, on a coupé la musique qui est là, qui est plutôt pas mal, nouveau titre, et il va falloir aussi que je fasse le sommaire. Je vous ai pas rempli le sommaire, mais je m'en occupe dans un instant. Vous allez bien? Ça va? Attends, on va faire ça tout de suite, c'est important le sommaire. Le sommaire qui vous permet de savoir de quoi on va parler, quels sont les sujets du jour dans l'actualité. Où est-ce que je me suis mis ça? Je vous ai mis pas trop de choses ce matin. Du coup, on va pouvoir prendre le temps, mais je suis aussi ouvert à d'autres actus, bien sûr. Hop, je vous le mets là. Hop. Je suis en train de faire mes petits copier-coller. On parlera notamment de la réforme des retraites, mais pas seulement. Hop, je vous le mets là, voilà, le bonjour, les retraites, ouais, c'est bon. Et je vous mets la même chose sur TikTok, bande de beaux gosses. Voilà, là vous l'avez sur Twitch. Ça c'est le sommaire d'aujourd'hui, ok. Et TikTok, je vous le mets tout de suite aussi. Ouais, j'avais juste oublié de le copier-coller. Le sommaire, il est là. Je vois un bonjour du Québec qui fait plaisir. Ça s'est passé comment la tempête chez vous? Il n'y a pas eu de soucis? Il n'y a pas eu de dégâts, j'espère. Ah oui, qui as-tu? Il y a une grosse faute, ouais, t'as raison, ouais. Une énorme faute, ouais. Merci beaucoup. Ouais, c'est fait tôt le matin, ça. Ouais, bien joué, merci, vous êtes formidable. Ok, TikTok, vous l'avez du coup. Dites-moi s'il y a des fautes d'orthographe. Ouais, bien vu, la faute. Ah, c'est ça le côté collaboratif. Qui es-tu? Oh là là, la vache. Après, ça donne des leçons sur l'orthographe à la maison aux enfants, quoi. Ok, on y est, on est pas mal là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Oh, la musique, on peut fermer. Ok, et TikTok, vous êtes là. Ok, j'y suis. Vous allez bien? Merci à Stat. Avant, je m'intéressais pas trop à l'actu. Merci à toi surtout. C'est franchement le rendez-vous matinal que je préfère. Merci Anto, c'est gentil. Ah, merci Gatan. Ah, ça va Gatan? Depuis hier. On a bien ri hier soir. Enfin, un domaine où je peux dire que j'ai corrigé Samuel Etienne. Ouais. L'orthographe, on n'a jamais. On veut toujours rester en alerte, hein, en veille. Hein. C'est vraiment. C'est un vrai. Ouais, Thibaut InShape, qui es-tu? Ouais. Ouais, il y a un article dans le Figaro sur Thibaut InShape. Et c'est marrant, je crois que c'est quelqu'un dont je n'ai jamais parlé encore sur ma chaîne. Vraiment, on n'a jamais eu vraiment de moment d'échange sur ce créateur de contenu. Qui en termes de stats, je crois, est le premier YouTuber français, hein, si on regarde les chiffres. Donc c'est intéressant, je trouve, de s'intéresser à son contenu, quoi. Ouais. Je vous lis un petit peu, c'est mon plaisir du matin. Et on part. Ah mais j'ai pas mis le sommaire là. Mais il manque le sommaire, les gars, dans mon. Il y a bonjour, mais il n'y a pas sommaire. Oh là 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 là, rien ne va ce matin. Samuel, concentre-toi. Ce matin, j'étais à la radio, j'étais sur RTL. Donc, je me suis levé tôt, mais je suis parti à. J'étais à 8h à RTL. Vous n'avez pas pu m'entendre en direct parce que c'est une émission qui sera diffusée plus tard. Je crois que ça sera diffusé au moment des fêtes de fin d'année en décembre. Émission sur le jeu vidéo, en fait. On était 4 invités à parler du jeu vidéo d'une façon générale dans la société française, en fait. Voilà. Donc, ils ont invité le vieux, quoi. Ils m'ont invité, c'était super sympa. Et du coup, voilà, il est tard, mais en fait, je suis réveillé depuis un petit moment déjà. Voilà, là, je crois qu'on a tout là, ok. Quand est-ce qu'on revoit à la télé? Bah, je suis là tous les week-ends. Qu'il y a, samedi et dimanche, question pour un champion. Mais disons que c'est pas mon occupation principale, quoi. Voilà, clairement, aujourd'hui, moi, mon effort, il est beaucoup plus sur les plateformes, quoi. Twitch, TikTok, YouTube, Insta. Ça n'a pas duré longtemps. Hier, BFC, je suis parti manger. T'avais raté ton stream. Oh, bon, on a fait un peu plus de 3 heures quand même. Un peu plus de 3 heures. C'est juste que bah, voilà, je savais que j'allais me réveiller tôt ce matin pour la revue de presse et RTL. Je t'ai pas entendu, pourtant j'ai la radio RTL dans le camion. Oui, en fait, c'est une émission qui était enregistrée, qui n'était pas en direct. Et qui sera diffusée, je crois, vers Noël. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il sort un truc, Thibaut? Il est en promo, il était sur Quotidien hier soir, me dit Clément Poitou. Oui, il sort un livre. Exactement, il sort un livre. La nouvelle première ministre japonaise, j'en ai déjà parlé, Tripak. Au moment où elle était pressentie pour devenir première ministre, il y a quelques jours. Maintenant, c'est officiel, mais du coup, je suis pas revenu dessus, j'aurais pu, mais non. Ah, tu penses que c'est juste en termes de follow, Sugar, c'est pas en termes de stats sur les vidéos? Ok, d'accord. C'est intéressant. Ok. Comment ça va, vous? Salut Bobby, bon travail, bon courage. Ça souffle très fort à Lille, j'ai rien dormi. Donnez-moi des nouvelles de la tempête là. Donc Lille, à Paris, ça a soufflé un peu cette nuit, mais rien de méchant. Comment c'était? Je devais boire un café sur le port ce matin, mais j'avais peur de m'envoler, me dit Puy-le-Borough est bien loin. Tempête à Amiens, me dit Nel. Trop de vent, c'est horrible. Racontez-moi. Rennes, du vent, mais pas énorme, dans les Hautes-Alpes. On attend un déluge. À Paris, c'est calme. Dans l'Oise, ça souffle pas mal. Ok. Ça souffle à Toulouse, beaucoup de pluie, me dit Orissane. Salut Bordeaux, rien à signaler. Ok, ça a l'air ok alors. Hein. Aux Pays-Bas, ça. Black Pearl et aux Pays-Bas, il me dit que ça peut être chaud. Bayonne, ça souffle très fort, me dit Momo la rebelle. Alsace, grosse pluie de fou dans le Bas-Rhin. Haut-Rhin, c'est calme. Ille-et-Vilaine, ça souffle encore pas mal. Calais, ça souffle plus. Me dit FDL, c'est Zizi Bazooka, Alsace ça va, mais plein de pluie et de vent, Béthune pareil, vent de malade. Dans l'Allier ça souffle, me dit Letty. Voilà, j'invente pas des messages, hein, c'est parce que je lis les deux chats Twitch et TikTok. Dans le Doubs ça souffle, j'y vais dans le Doubs là, Axel, j'y vais ce soir. Vendée c'est chaud, Lexus. Nord tempête, me dit L59, Toulouse ça souffle très fort, Marseille ça a bien pété la nuit de dimanche, court mais intense. Les arbres ont craqué dans les Côtes d'Armor, mais ça a bien tenu Benjo. Haute-Savoie, ça tape fort, me dit Rolégie. Beaucoup de vent en Seine-Maritime, me dit Towelli. Au Havre, très violent, me dit Maz. Calme à La Roche-sur-Yon, ok. Alpes, rien de rien, même pas un kilomètre heure. Bordeaux, ça souffle très fort. Bah, quelqu'un me disait à Bordeaux tout à l'heure que c'était calme. Vous n'êtes pas dans. C'est quoi? C'est selon les rues? C'est selon les quartiers? Vous êtes. C'est pas les mêmes. Merci Kiki de Jungle pour le 16e mois. Merci Lolo des Bixels pour le 49e mois. Merci Nadu05, je t'ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire en Franche-Comté? Bah je vais dans ma belle famille. C'est les vacances. Dans le Loiret, ça souffle, ok. Que le plaisir d'entendre le vent dehors en étant sous la couette cette nuit. Sugar, t'étais dehors sous ta couette? Quand il y a du vent, tu te mets dehors sous ta couette pour apprécier le spectacle des. La tempête des éléments? Rochelle, La Rochelle déluge. Ok. Ok. À 3, ça souffle fort. Ça souffle grave à Bréhat. Aux alentours de Marseille, c'est calme. Plus d'électricité à côté, du côté de chez Lette. Gérard, mais ça souffle bien. Ok. Ok. Bon, d'accord. Parce que ce matin, dans la presse, il n'y a pas d'article sur les la tempête. Il y en a peut-être demain matin. J'ai l'impression que c'est à peu que c'est ok qu'il n'y a pas eu des dégâts de fou, quoi. Ok, très bien. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Ok. Bon, profitez d'être revue de presse, hein. Après, il n'y en aura plus. Après, il n'y en aura plus. C'est fini après. Fini. Là, jeudi, là, voilà. Après, c'est terminé. Pour toujours? Non, non, pour les vacances. Non, je m'arrête une petite semaine. Ce matin, stream. Après, plus rien de la journée. Et on a streamé 3 fois. Hein. Demain, vendredi, rien. Samedi, rien. Dimanche, rien. Lundi, rien. Mardi, rien. Mercredi. Mercredi soir, stream. Donc, c'est même pas 7 jours. C'est même pas une semaine. C'est 6 jours. Mercredi soir, je serai de retour à Paris. Et je ferai un stream de gaming. Et après, ça reprend. Vendredi matin, revue de presse. Vendredi soir, il y aura du Battlefield. La semaine prochaine. Et retour de Samplay, etc. Voilà. On prend 6 jours. On prend 6 jours. Merci Nikofi. Ça va être sympa. T'emmènes pas le setup chez la belle famille? Non, pas là. Pas là. Je prends vraiment 6 jours. Et la famille, la famille, la famille. On est tous très occupés, puis et parfois on n'est pas assez présent pour ses proches, quoi. Donc voilà. Avec Hélène, avec les enfants. Voilà. Avec la belle famille. Une semaine toute chill, quoi. Et puis un peu de sport aussi, parce que bon, j'avais bien repris là, puis avec la rentrée, j'ai re-arrêté. Ouais, exactement, faut savoir couper de temps en temps. J'ai complètement raison. Et après, on. Et il n'y aura pas de MVP à la PGW, non? Non, finalement, ça a été. On a essayé de pas le faire parce que les conditions n'étaient pas réunies pour un bon MVP. On est très fiers de cette émission et on veut pas faire n'importe quoi. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les conditions n'étaient pas réunies pour faire un bon MVP à la PGW. Mais je serai à la PGW le samedi 1er novembre, si je dis pas de bêtises, 18h30-20h sur la grande scène. Petite surprise. Mais c'est pas MVP. Ouais. Bravo Ariette, félicitations. C'est cool. C'est une bonne nouvelle. Le prochain MVP, c'est dans aucun jour, quoi, à peu près. Ouais, Grand Cactus, trop bien, Samy. Tu fais quoi comme sport? Bah, essentiellement de la course à pied, puis il y a eu du triathlon. Vous êtes très nombreux à me parler de mon passage dans l'émission belge de Grand Cactus. Sachez que c'est une pure émission. Et que j'ai passé un super moment à Liège. Ouais. Oui, effectivement, le prince, on parlait de la tempête tout à l'heure, ouais. Super. Bon, bah, génial. Moi, je vous laisse à la PGW. C'est, je crois, si ça n'a pas changé, c'est à la porte de Versailles à Paris. C'est le grand salon du jeu vidéo pour ceux qui savent pas. C'est la Paris Games Week. Salut Sirad, je reçois beaucoup de messages. Je suis pas toujours aussi réactif que je le voudrais. Je m'en excuse. À un moment donné, cool. Félicitations. Oui, un peu de triathlon, Rubik Solo. Donc, je vous abandonne à midi 15 en fait. Midi 15 pour être précis. Parce que. J'ai deux réunions après. Oh, pardon. J'ai deux Teams. Deux Teams, l'une pour une collab, un travail. Pas vraiment dans le domaine d'Internet, ce qui est très rare, mais en même temps, si. Ok, stop, je dis rien de plus. Et une autre réunion juste après, de taf. Et après, je retourne à la maison, avec mon amoureuse, on prend le train. On rejoint les enfants, et voilà, c'est les vacances. Faut pas tout dire, exactement, faut en garder. Je me suis inscrit sur trois courses de plus de 100 km cette année. Trois courses à pied de plus de 100 km, la même année, Moulbit. Oh. Waouh. Quentin, j'ai pas de nouvelles, mais je crois que c'est OK. Je crois que c'est OK. Pour notre invité qui était hospitalisé en urgence hier matin sur MVP. 3 courses de plus de 100 km. Tu vas faire le marathon de Paris? Ça fait longtemps que j'ai pas couru un marathon. Ça fait longtemps. Longtemps, longtemps. Merci Toax. Merci Toax54. Eh ben on y va. Ouais, eh ben. J'ai pas trouvé de vacances. Moi, ça se trouve où ça? Ouais, il faut de temps en temps. Hein. Le travail, c'est bien. C'est encore mieux. Le triathlon de Gérard May avec Gilles Boulot? Pff, non. J'ai fait déjà un peu de tri, moi. Gérard May, non. C'est quoi comme format, Tchoussman? Il fait quoi, Gilles, comme format? On s'est croisé sur des courses, Gilles Boulot. Je sais qu'il est très sportif. Qu'est-ce qu'il fait comme format? Parce que ça dépend du format, quoi. Tu es beau, mon petit ananas aux fruits de mer. Merci, Timo. Donc oui, le travail, c'est bien. Surtout quand on a la chance d'avoir un travail cool. Non, on parle de triathlon, mon bite. Quelqu'un me disait qu'il faisait un tri à Gérard May. Je sais qu'il fait de la course à pied, Gilles. Je l'ai croisé souvent, d'ailleurs. Mais je demandais quel tri il faisait, quel format. XS, S, M, L, XL, double XL, Half Ironman, Ironman. Merci, Klikiki, tu donnes de la force. Tu sais qu'en passant ici, tu gonfles mes stats. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Sang, tu fais plus de contenu gaming? Si, tous les jours, mais uniquement sur Twitch. TikTok, vous avez l'info le matin. Je vois dans le sommaire Thibaut Inchep qui est passé avec Thibaut. Rien, il sort un livre. Et je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé trop sur ma chaîne, donc voilà, j'en ai profité. Il y a un article dans le Figaro. Ok. Allez, let's go. La matinée, Étienne, qu'est-ce que c'est? Depuis 5 ans sur Twitch, le matin, et désormais tous les matins du lundi à vendredi, on lit les journaux. On se penche sur l'actualité, on lit des articles, on en parle ensemble, on débat, on est d'accord, pas d'accord, mais l'important, c'est d'être ensemble et d'en discuter. C'est la matinée, Étienne, c'est depuis 5 ans sur Twitch. Avant, c'était le plus souvent possible, maintenant, c'est vraiment tous les jours, du lundi au vendredi. Oh oui, t'inquiète, je m'occupe de tout ça et c'est sous contrôle. Du lundi au vendredi, voilà, le matin, et puis quand exceptionnellement je peux pas la faire le matin, bah, je la fais l'après-midi ou je la fais le soir, quoi. Voilà. Donc c'est sur Twitch, c'est sur TikTok, c'est en podcast audio, point d'exclamation podcast dans le chat Twitch, hein, c'est sur Deezer, c'est sur Spotify, c'est sur les podcasts d'Apple. En général, c'est posté vers 15-16 heures, c'est partout. Et on commence par un sommaire, ce qui va me permettre de vous dire ce qu'il y a aujourd'hui dans les journaux. Voilà, hop, c'est ça. Alors, de quoi on parle ce matin? Donc là, je vais un petit peu vite, c'est pour ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures, 2 heures et demie avec nous, que pour que vous ayez l'essentiel de l'actu. Ama, précieuse sœur, merci pour ton message. On va parler de discussion actuellement. Merci, Gasplouf, à l'Assemblée, sur le projet de budget, le projet de loi de finances. Voilà. Ah, j'ai pas mis la flèche sur le sommaire, vous êtes super. Voilà. Et notamment de la suspension, suspension ou pas d'ailleurs, de la réforme des retraites. Attends, mais je ne vous ai même pas mis le sommaire d'ailleurs. Hop, voilà. Tac. Je te le mets là, bien vu, le sommaire il a commencé précisément à 22 minutes. Ok. Ici. Bien vu. Et oui, si je vous mets pas la petite flèche, vous ne pouvez pas savoir où on en est, bien vu. Hop, hop. Hop, et pareil, TikTok, je vous mets la petite flèche, comme ça vous savez où on en est. Et ceux qui nous rejoignent en cours de revue de presse, bah, vous pouvez leur dire, ah, écoutez, regarde la petite flèche. Il a dit bonjour, on en est au sommaire et on parle des retraites juste après. Donc, les retraites. Macron sème le doute sur les retraites. Le chef de l'État, qu'est-ce qui se passe avec le président de la République, a affirmé mardi que la réforme était seulement décalée et non suspendue. Quoi? Attends, attends, attends. Une partie de la gauche, les socialistes notamment, ont accepté de ne pas censurer le gouvernement Le Cornu, de ne pas le. De ne de pas le faire sauter en échange d'engagement, notamment sur la suspension de la réforme des retraites. Et le président Macron dit qu'elle n'est pas suspendue, elle est juste décalée. Bob, 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 bob. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Article dans Le Monde. Merci Nelling, merci Sakir. Toujours sur les retraites. Donc, il y a ce que dit Macron, et puis il y a ce que prévoit le gouvernement. Il y a une page dans Les Échos sur le plan du gouvernement pour financer la suspension de la réforme des retraites. Et on a un édito dans Les Échos de ce matin sur bah, le sentiment des échos sur cette question en disant bah oui, on peut suspendre si vous voulez, mais les gars, c'est oublié qu'on a quand même un problème de financement de notre système des retraites. De plus en plus de personnes qui partent à la retraite, de moins en moins de salariés pour payer les cotisations. Les échos nous disent on peut faire ce que vous voulez, on peut suspendre, on peut faire plein de choses, mais à un moment, ça va coincer. Donc on lira cet article ensemble. On va prendre le temps là-dessus. Ça, c'est une petite révolution et je suis surpris que la presse n'en parle pas plus. En tout cas, c'est la une de la Croix, donc pour la Croix, c'est une information essentielle. Salaire, le secret se dissipe. Merci Chizo pour la force que tu mets dans les stats. Une directive européenne que la France va transposer dans son droit oblige les entreprises à être transparentes sur leur politique de rémunération pour lutter notamment contre les inégalités liées au genre. Une directive européenne que la France va devoir transposer oblige les entreprises à être transparentes sur leur politique de rémunération. On va pouvoir connaître les salariés des autres dans sa boîte. Il s'agit de lutter notamment contre les inégalités liées au genre. Ça veut dire quoi, politique de rémunération? Bah, ça veut dire les salaires. Ça veut dire qu'on va pouvoir connaître le salaire des autres. Voilà. La transparence salariale. La transparence salariale. Je comprends pas, c'est quoi les stats? Il a mis un message de Debs en plus. Bah oui, parce que pour écrire une connerie dans mon chat, que ce soit sur Twitch ou TikTok, bah il faut follow. Voilà. Et donc les personnes qui viennent un peu troller ou dire leur colère ou parler d'un autre sujet que celui qu'on est en train d'aborder, ça donne de la force à la chaîne. Et ça, c'est bien. Et moi, j'ai envie de dire bravo. Et je vous en remercie. Et donc, voilà, c'est une vraie révolution, la transparence salariale, une révolution dans un pays où l'argent est plutôt tabou. La France s'apprête à transposer une directive européenne qui oblige les entreprises à être transparentes sur leur politique de rémunération. Un texte qui vise avant tout à lutter contre les inégalités liées au genre, mais qui pourrait entraîner un changement de culture dans un pays où l'argent reste souvent une question taboue. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Ouais. Alors, est-ce que c'est tous les salaires d'entreprise? On va le vérifier. Il y a Malaya qui dit, mais je crois que c'est juste uniquement pour les postes de même niveau. C'est pas impossible. Hein? On va regarder ça. Alors, je n'ai pas vu la fausse information sur Brigitte Bardot. Désolé, Loustique. Je peux pas te répondre là-dessus. Voilà. Et puis... quatrième actu, tu vois, ce matin je vous ai pas mis 1000 actus, mais ça va nous permettre de prendre le temps d'en parler. Sur Thibaut Inchep, parce que Thibaut Inchep, c'est quelqu'un, je crois, sur lequel je n'ai jamais lu d'article, dont on n'a jamais vraiment parlé, alors que ça fait 5 ans que je stream. Voilà. Thibaut Inchep, bleu, blanc, rouge. Voilà. Premier youtubeur de France avec ses presque 27 millions d'abonnés. Le trentenaire accro au sport. Publie Thibaut InShape derrière la lumière. Un récit, donc c'est un livre, où il raconte son parcours vers la gloire avec sa frénésie et ses revers. Voilà. Donc on lira ça, ce qui nous permettra d'échanger un petit peu sur Thibaut. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ok ? Pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui connaissent un peu son contenu, hein. Il ne s'agit pas d'avoir dire n'importe quoi si vous ne connaissez pas, quoi. Alors moi, j'avoue, je connais pas bien son contenu, d'ailleurs. Alors, du coup, je lirai l'article du Figaro et je vous lirai. Il a écrit sa bio, ouais, je pense. Ouais. Premier youtubeur de France, MDR, oui. En nombre d'abonnés, ouais. En nombre d'abonnés. Shukan nous disait tout à l'heure dans le chat, pas forcément les stats de ses vidéos, mais en nombre d'abonnés. Je crois pas que, a priori, il y ait d'autres youtubeurs français qui aient plus de 27 millions d'abonnés. Hein, donc je répète pour ceux qui ne veulent pas entendre, il y a Axel qui dit « Je pense que c'est pas le plus gros youtubeur, mais c'est le plus gros youtubeur short, car 90% de ses stats sont des shorts. » En nombre d'abonnés. Le plus gros youtubeur en nombre d'abonnés. Voilà, il était sur Quotidien hier soir. Exactement. Voilà. Il sert à quoi ce type? Je sais pas. Faut que les gens servent à quelque chose? Faut que les gens servent à quelque chose. Oh là là, c'est vrai, ça provoque plein de réactions, c'est vachement intéressant. Ok. En tout cas, vous êtes nombreux à souligner que le nombre de followers sur sa chaîne YouTube a été gonflé par les shorts, notamment les shorts muets, enfin sans commentaires, qui publient et qui ont beaucoup de succès à l'international. Ok. Il est malin, me dit Seskill. Il a participé à Masked Singer, me dit Amboulette. Pas fan du perso, après ce qu'il fait pour le sport, c'est bien, me dit Corentin. Oui, je suis Silver, papa. Ah, alors, je vois des un peu fachos, le Thibaut. Alors, bah, si vous voulez, c'est une question qu'on évoquera. Pourquoi j'entends ce genre de choses fachos, ça veut dire. Fasciste. C'est ça que vous voulez dire, fasciste? D'extrême droite? C'est ça, sans doute. Est-ce que Thibaut Inchep est d'extrême droite? Bon, on verra, on se posera cette question. On verra ce que lui dit sur la question, d'ailleurs, parce que lui en parle, d'ailleurs. Bon, bah, je suis content de vous mettre le sujet parce que j'ai l'impression que y a un petit peu de réaction. Ok. Après, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, quoi. Fasciste? Est-ce que tout le monde connaît bien la définition du fascisme? L'extrême droite, est-ce que tout le monde sait ce que, politiquement, d'après la plupart des chercheurs, ce que veut dire extrême droite en France? Vous voyez, c'est là où on va essayer de sortir un petit peu du café, du commerce, de petit apéro de 18h. Pour essayer d'être un petit peu précis. Voilà. Aujourd'hui, dans les débats d'actualité en France et ailleurs, parfois il y a des gens qui utilisent des termes un tout petit peu à tort et à travers, et du coup ça affaiblit le terme. Voilà. Et du coup, quand on utilise vraiment le terme, qu'on veut vraiment qualifier de très précis, pour dire par exemple fascisme ou l'extrême droite, bah, si on l'a utilisé pas à bon escient auparavant, bah, quelque part ça vient affaiblir l'analyse, quoi. Lord Jashungan dit « Le terme facho a été dénué de son sens par son utilisation intempestive. » Eh oui, alors pourtant c'est un mot très fort, très important. Tu penses que le fascisme n'existe plus, Samuel? Omelette Psylo, c'est exactement l'inverse. C'est ce que je dis, c'est justement l'inverse. C'est justement parce qu'on doit pouvoir encore utiliser ce mot, mais si on le met à toutes les sauces, bah, il n'a plus de sens. Hein, pour certains... le facho, c'est celui qui pense pas comme toi, quoi. C'est un peu con. C'est un peu con. Ouais, ça affaiblit le terme, quoi. Ok. Allez, on part des retraites pour commencer. Alors, on quitte le sommaire et on va sur le premier épisode ce matin sur les retraites. On a 31 minutes. Comme ça, ceux qui nous rejoignent savons, on en est, et ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube ou sur Twitch, vous savez où on en est. Bienvenue les amis dans la matinée Étienne de ce jeudi 23 octobre. Merci d'être avec nous sur Twitch, sur TikTok, en replay sur Twitch, sur YouTube et bien sûr en podcast audio aussi sur toutes les plateformes. Désormais, en général, c'est posté vers 15-16 heures, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est un article dans Le Monde, hein, qui a été publié hier après-midi. Voilà. Macron sème le doute sur les retraites. Qu'est-ce qu'a dit le président Macron? Non, Ellie, je te rassure, il n'y a pas de nouveau gouvernement. La dernière fois que j'ai vérifié, il y a 5 minutes, non. Après, je peux rater des trucs. Merci Bogdoga pour le soutien et pour ton message. Merci Cétarno, merci Nelling, merci Jérôme Collat, merci Juste Clodo. Putain, juste Clo-Clo, pardon. Putain, le pseudo, c'est juste Clo-Clo, et j'ai lu juste Clodo. Je suis désolé, je me suis levé très tôt. Oui, bah, vous pouvez rire, vous avez le droit de vous moquer. J'ai pas pris beaucoup de café, je suis très heureux, mais j'ai pas beaucoup dormi. Juste Clo-Clo. Merci, Bénédicte, merci. Macron sème le doute sur les retraites. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chef de l'État a affirmé hier que, pardon, mardi, que la réforme était seulement décalée et non suspendue. Quoi? Je vous rappelle que le gouvernement, le cornu, ne tient sa survie qu'à l'absence des votes d'une partie des socialistes sur la motion de censure, notamment celle qui a été déposée par LFI, et que le gouvernement, le cornu, pour ne pas sauter, il a besoin de ne pas être censuré par les voix des députés PS. Or, les socialistes ont exigé du gouvernement Le Cornu que la réforme des retraites soit suspendue. Suspendue. Merci, juste l'étain. Suspendue. Voilà. Bon allez, on parle pas du Louvre, la SVP, ça saoule. Julien, il y a plein d'infos sur le Louvre que tu vas trouver sur Internet. Tu vas te régaler. Bonne journée à toi. On en a parlé lundi. Ici, on a parlé mardi. Ici, on a parlé mercredi. Ici, tu sais quoi? Tu devrais en profiter pour aller au Louvre. Je crois qu'il y a plein de gens qui se passionnent pour le Louvre en ce moment. Et à mon avis, parmi ces gens qui se passionnent pour le Louvre, ouais, c'est un scandale. On a volé les bijoux de la France, du Louvre. Il faut des coupables. Et c'est quoi ce bordel? Et la France va à volo. Et c'est la chienlit. Et c'est vraiment de la. Je crois que la plupart des gens qui disent ça, en fait, sont pas allés au Louvre, en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que la galerie qui a été fracturée, là, galerie d'Apollon, si je dis pas de bêtises, c'est l'une des moins visitées du Louvre. Ces bijoux, quasiment personne jamais va les voir, je sais, parce que moi, je fais des streams au Louvre. J'en parlais avec des gens là-bas. Et c'est pas du tout une aile très populaire. Les gens y vont très très peu. Donc, il y a plein de gens qui. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de cette galerie d'Apollon et de ses bijoux, mais qui sont très très en colère quand même. Ah. En tout cas, n'hésitez pas à aller au Louvre. C'est quoi cette histoire de Macron qui sème le doute sur les retraites? Lisons. Emmanuel Macron a semé le doute mardi sur la suspension de la réforme des retraites. Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu et le groupe socialiste à l'Assemblée nationale sont engagés dans une discussion difficile. La réforme de 2023 ne sera ni abrogée, donc supprimée, mais la flèche, elle est au bon endroit, chouchou. La flèche, elle est pile poil au bon endroit. Macron sème le trouble. Ah, sur Twitch, peut-être que sur TikTok, elle y est pas. Ouh, sur TikTok, elle y est pas. Bien vu. Bien vu. Donc, il dit qu'elle va pas être suspendue, ni abrogée. Abrogée, c'est supprimée. Alors là. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État lors d'une conférence de presse à Ljubljana, en Slovénie. Sébastien Lecornu a fait un choix pour apaiser le débat actuel sur le projet de budget 2026, sur la potentielle censure du gouvernement, a lancé le président de la République, bah ouais. Mais cela ne signifie ni abrogation, bon, suppression, ça, d'accord, ni suspension de la réforme. La suspension, elle ne s'applique pas. Et on voit quand elle s'applique. Ouais. Seulement un décalage d'une échéance avec une borne des 63 ans, blablabla. Le Monde rappelle que sous la menace d'une censure, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait une concession majeure aux socialistes, c'est ce que je vous disais, dès sa déclaration de politique générale, hein, le 14 octobre, c'est son discours à l'Assemblée pour dire ce qu'il va faire, en gros, en leur promettant la suspension de la très impopulaire réforme des retraites. Victoire, premier pas, c'était félicité. Le premier secrétaire du PS, hein, Olivier Faure, décidant de ne pas censurer le gouvernement. Voilà. Oui, Lecornu a dit le mot suspension, exactement. Voilà. Et du coup, le gouvernement a échappé à la censure, notamment avec l'abstention des socialistes. Mais depuis une semaine, les députés de LFI, la France Insoumise et du RN, Rassemblement National, accusent les socialistes de s'être fait rouler dans la farine, de s'être fait avoir. En choisissant initialement d'inscrire cette suspension de la réforme des retraites dans un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement a emprunté une voie qui ne permet pas d'acter la suspension s'il y a un enlisement des débats, si ça traîne à l'Assemblée, voilà. Et de recours à des ordonnances pour faire passer le budget. La victoire sur les retraites donc n'est pas acquise, a souligné Jean-Luc Mélenchon. Merci FEJ pour le soutien. Merci Ska Parmal, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 48e mois. Merci encore juste Clo-Clo, je suis désolé, hein. Merci Bénédicte. Voilà. Et donc Jean-Luc Mélenchon, il doute. Il doute. Or, en décrivant la concession de son Premier ministre comme un simple décalage d'une échéance, et en évitant d'utiliser le mot de suspension, Emmanuel Macron semblait donner raison aux oppositions. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, s'est empressé de retweeter les propos du chef de l'État. La réforme des retraites de 64 ans n'est pas abrogée ni suspendue, elle est décalée, a-t-il triomphé sur X? Dans l'hémicycle, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, donc c'est Marine Le Pen, s'est de son côté fait un plaisir d'interpeller le Premier ministre sur sa fausse promesse. Le président du groupe PS, Boris Vallaud, a lui jugé utile de rappeler au chef de gouvernement son engagement, hein, proposé devant la représentation nationale, de suspendre, puisque Lecornu a utilisé ces mots. Suspendre la réforme des retraites. Prenant ses distances avec les propos d'Emmanuel Macron, le Premier ministre a donné des garanties aux socialistes. Donc Macron, Lecornu a réagi. Et il a pris sa distance avec les chefs de l'État. Parce que ce qui s'était dit avant la formation du gouvernement Lecornu 2, c'est que Lecornu avait accepté d'y retourner, vous savez, après sa première démission, mais à condition d'avoir carte blanche, c'est-à-dire à condition de pouvoir proposer des concessions, notamment aux socialistes, de pouvoir négocier pour obtenir leur soutien, en tout cas leur abstention, pour que le gouvernement Lecornu puisse un petit peu se poursuivre. Une carte blanche que Lecornu aurait obtenue. Voilà. Sauf que là, Macron ne semble pas respecter le deal. Et Lecornu a déclaré, le président s'est exprimé uniquement sur la mesure d'âge tout à l'heure en Slovénie. Je suis allé plus loin lors de ma déclaration de politique générale. Sébastien Lecornu qui a rappelé avoir bien annoncé la suspension tant du décalage de l'âge légal de départ à la retraite que de l'augmentation du nombre de trimestres de cotisation, sans laquelle la première mesure, évidemment, ne serait rien pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet. Donc, une petite dissension entre les deux têtes de l'exécutif. En réponse aux attaques dont nous faisons l'objet sur notre bonne foi de la part de l'extrême droite et des insoumis, le Premier ministre a finalement annoncé dans l'hémicycle, pour lever le doute qui s'emparait des bancs, ah, politesse, c'est cool, hein, Mifa. Je suis content. Tiens, je vais aller voir, d'ailleurs. Politesse, une appli de sondage, on en a parlé il y a quelques jours, puis du coup, on a créé notre sondage, nous aussi. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est une appli qui permet à chacun de créer des sondages. C'est plutôt rigolo. On en a parlé lundi, je crois. Et on a créé un sondage. Qu'est-ce qui est devenu notre sondage? Attends. Ah, il y a trop de monde ou quoi? J'arrive pas à me connecter. Framboise, tu l'utilises aussi? Oh, mais pourquoi ça marche pas? Ah, c'est mon réseau Wi-Fi? Non. Ah, c'est bon. Le plus populaire, voilà. Alors. Il y a plein de questions sympas. Trouvez-vous qu'il est bizarre de ne pas boire d'alcool en soirée? Les jeux vidéo rendent-ils vraiment violents? Tiens, c'est un truc dont on a parlé ce matin sur RTL. Je spoil, la réponse est non. L'éducation devrait-elle une priorité pour le gouvernement? Pour ou contre l'utilisation de voix IA pour doubler les films et séries en VF? Selon vous, le parti Rassemblement National est-il d'extrême droite? L'école prépare-t-elle vraiment les jeunes à la vie adulte? Souhaitez-vous que Samuel Etienne se présente à la présidentielle de 2027 avec un programme co-construit sur Internet avec tous ceux qui voudraient participer au débat? Ça, c'est la question que nous avons créée ensemble. Ok. 69% oui. Tadam! 24% non. 7% je ne sais pas. Voilà. Et il y a eu combien de votes? Il y a eu 1654 votes. C'est politesse. P-O-L-I-T-E, accent circonflexe. S, elle est marrante cette appli. Alors, bon, ça c'est pour mon élection en 2027. Et là maintenant, on revient à l'actu politique. Voilà. Donc, pour lever les doutes, Lecornu a annoncé à l'Assemblée que la suspension de la réforme passerait non pas par un amendement, mais comme l'avaient demandé il y a quelques jours les socialistes, par une lettre rectificative au PLFSS, donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui sera adopté jeudi au cours d'un conseil des ministres ad hoc. La procédure de la lettre rectificative avait été suggérée la semaine du 13 octobre par un universitaire qui s'appelle Benjamin Morel, et elle laisse présager que l'option la plus probable est l'adoption du budget par voie d'ordonnance. Ce qui serait une première dans l'histoire de la 5e. Et oui, il s'est engagé à ne pas utiliser le 49.3, mais le budget, il pourrait passer par ordonnance. On y reviendra quand ça se passera. Donc, revenons à notre histoire de retraite. Donc, il y a une bataille de mots, une bataille sémantique, dit Le Monde, entre le président Macron et le Premier ministre Lecornu. Bataille sémantique qui n'est pas nouvelle, nous explique Le Monde. Alors qu'il recevait les présidents des groupes parlementaires et de l'Assemblée, les chefs du parti le 10 octobre, Emmanuel Macron avait déjà évoqué un décalage dans le temps de la mesure d'âge de départ. Or, il a toujours été question dans la bouche du Premier ministre d'une suspension. Hein, vous avez vu? Matignon minimise l'incident, observant que le président parle seulement de l'âge légal de départ, tandis que le chef du gouvernement englobe dans la suspension le recul de l'âge de départ et l'augmentation du nombre de trimestres cotisés. Je vous résume le truc, hein, ça joue sur les mots. Ça joue sur les mots. Voilà. Ça joue, on joue un petit peu sur le flou. Le choix du véhicule législatif pour la suspension a également fait l'objet d'un flottement au sommet de l'État. Donc c'est de quelle manière cette suspension de la réforme des retraites va être mise en œuvre. Hein, donc c'est le véhicule législatif. Après la déclaration de politique générale, la ministre Amélie de Montchalin avait affirmé que cette suspension ferait l'objet d'un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale. Hein, alors qu'un autre ministre, Jean-Pierre Farandou, évoquait une loi spécifique. Ouais. Alors, le président de la République penchait initialement pour une loi spécifique, mais elle aurait dû être gagée financièrement et n'aurait pas pu être adoptée avant la fin de l'année. Bon, c'est un peu technique, mais c'est vraiment une question essentielle. C'est selon le véhicule législatif, le support pour mettre en place cette suspension de la réforme des retraites, selon le choix de ce véhicule législatif, on va voir si le gouvernement veut vraiment la mettre en place ou pas. Parce qu'il y a des chemins qui sont plus hasardeux que d'autres. Voilà. Enfin, je vous résume un peu le truc, quoi. Parce que je vois que certains s'endorment. MMG, je vois que tu es en train de t'endormir. Non, pourquoi Macron semble jouer sur les mots? Analyse du Monde. L'intervention du chef de l'État est interprétée par certains comme une volonté de se distancer de Le Cornu, alors que celui-ci fait une nouvelle concession aux socialistes. Elle est également perçue comme un signe de fébrilité, voire une difficulté pour Macron d'accepter un recul sur une réforme qui devait être la mère de toutes les batailles, disait-il. Une de ses réformes les plus importantes. LBMRC, non seulement je connais Besançon, mais j'aime Besançon. Et je suis marié à une Byzantine. Byzantin, Byzantine, habitant de Besançon. C'est le gentilé. Recevant quelques-uns de ses soutiens, le 16 octobre à l'Elysée, il avait défendu le compromis trouvé par Le Cornu avec le PS au nom de la stabilité, tout en encourageant les députés à assumer leurs convictions, ce qui a été interprété par les plus réfractaires au compromis comme un feu vert pour voter contre la suspension. Bon. Je vous résume une page en quelques mots. Le président Macron, il a du mal à avaler la pilule. Voilà. Au nom de la stabilité gouvernementale, il a dit « Ok, Seb, Sébastien Le Cornu, Seb, Babas. Ok, Seb, Babas, tu... Ok, t'as qu'à dire aux socialistes, on va suspendre. Voilà. » Vous avez bien dit suspendre, monsieur le président. Oui, oui, oui. Hein ? C'est bien la suspension. Oui, oui. Mais en fait, il veut pas. Il veut pas parce que le président Macron, dans son programme présidentiel, il y a plusieurs choses, la baisse des impôts, les formes de libération des entreprises, et puis il y a aussi cette réforme des retraites. Pour lui, elle est essentielle, quoi. Et donc là, maintenant qu'elle est un peu en voie d'être suspendue, ça râle un peu, quoi. Voilà. Alors, maintenant qu'on s'est penché sur les doutes du président Macron, doute partagé par d'autres. Il y a des gens qui disent que c'est une très mauvaise chose. Hein. On lira un édito dans les Échos tout à l'heure qui disent « Attendez les gars, sur les retraites, il n'y a plus une thune. Hein. Trop de retraités, pas assez de salariés. Vous pouvez suspendre ce que vous voulez, ça va nous coûter une blinde. » Donc il n'est pas tout seul dans cette analyse. Mais avant de se pencher là-dessus, on va lire un papier dans les Échos sur le plan du gouvernement pour financer la suspension de la réforme des retraites. Parce que ça a un certain coût. Alors, hop, je me mets dessus. C'est le plan Le Cornu. Tintin, tintin, tintin. Le plan Le. Pourquoi je suis très en forme ce matin. Alors, quand je dors peu, je suis d'humeur un peu étrange, je dis beaucoup de bêtises, je chantonne, je fais des blagues bizarres, je me trompe sur les pseudos. C'est restez parce que il peut littéralement se passer des dingueries. Hein. En général, quand je dors pas beaucoup comme ça, vraiment très peu, je peux dire n'importe quoi. À n'importe quel moment. C'est un peu le... C'est le show, c'est le spectacle. Voilà. Je vous mets la petite flèche. Comme beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Sauf que moi, je suis en live et après, tu peux enregistrer, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu peux mettre ça sur Internet. Dire, ouais, il a encore pété un câble, l'autre vieux problématique, je vous le disais. Voilà. Mais moi aussi, Mathis, je t'aime. Aussi. Arrête le petit jaune le matin aussi. Non, c'est un petit café. Ce n'est que mon deuxième, parce que j'essaie de diminuer le café aussi. Bientôt en asile, Sam. Oh, oh. Ça va sortir pendant la campagne, c'est sûr. Alors ça, Fabricadon a raison. C'est-à-dire que quand on va rentrer ensemble, collectivement, c'est un projet collectif, en campagne pour la présidentielle de 2027, qui nous amènera donc à l'Élysée, vous allez voir que au début, les gens vont rigoler. Mais je t'aime aussi, Céro. Hein? Les gens vont rigoler. Qu'est-ce qu'il veut encore, l'autre, là? Et puis quand on va commencer à être mesuré dans les sondages, quand on va commencer à, je sais pas, à faire du 3, du 4, du 5%, du 7, du 10, du 15, du 20, du 30% d'intention de vote, là, ça va sortir les couteaux. Et là, on va aller chercher toutes les bêtises que j'ai dites depuis que je suis né. Et j'en ai dit énormément. Voilà. ce sera très drôle. Et ce sera très drôle. Oui! Le 12 février 2022, à 9h12, dans sa revue de presse, regardez! Il a dit ça! Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tous mes lives sont sur YouTube. Donc, littéralement, le gars qui veut vraiment se fendre la gueule, il se tape 5 ans de replay, 5 ans de live. Il va se rendre compte que par stream, je dis à peu près 15 conneries, quoi. Voilà. Mais comme le dit Tenry, on s'en fout, ça fera monter les vues. Exactement. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Le plan du gouvernement pour financer la suspension de la réforme des retraites. Merci Balèze, merci Carillon, merci Sam Fourien, merci JayZix. Vous êtes incroyable, merci Liprisk. Un instant. Pour compenser le coût, parce que c'est un coût, de la suspension de la réforme des retraites, le gouvernement Lecornu prévoit de demander un effort supplémentaire aux retraités et aux complémentaires santé, selon la lettre rectificative que les Échos se sont procurée. L'exécutif amende pour de bon sa copie sur les retraites. Ce jeudi, le gouvernement, donc c'est aujourd'hui, devrait, selon nos infos, proposer de décaler la montée en charge de la réforme 2023. Donc en gros, Lecornu dit Macron, tu dis ce que tu veux, je le fais, quoi. En demandant en contrepartie un effort supplémentaire aux retraités. Donc ce seraient les retraités, hein, qui paieraient une partie de ce coût. Voilà. Et aux complémentaires santé. Réclamé par les socialistes pour ne pas censurer le gouvernement, très fragile et sans majorité, le principe d'une suspension de la réforme doit être consacré dans cette lettre rectificative au budget 2026 de la Sécu, présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Donc c'est en train de se confirmer cette histoire. Cette lettre est censée garantir que la suspension sera bien adoptée, même si l'exécutif décide de faire passer sa copie budgétaire par ordonnance, faute d'adoption du projet de loi de financement de la Sécu dans les temps. Dans le projet de lettre que les Échos ont pu consulter, des petites infos des Échos là, le gouvernement confirme bien le gel à 62 ans et 9 mois de l'âge de départ à la retraite, et ce jusqu'au début de 2028. Donc il y aurait bien un gel, une suspension, vous l'appelez comme vous voulez. Alors qu'il devait passer à 63 ans pour la génération née en 64, l'âge de départ à la retraite n'augmentera qu'à partir de la génération 1965. Bon, moi je suis né en 71, donc je l'aurai quand même. Le nombre de trimestres requis pour partir une retraite à taux plein serait aussi gelé à 170 trimestres. Et puis, donc pour la génération 64, et puis ça passait à 171 pour la génération suivante. La réforme reprendrait donc sa marche après l'élection présidentielle, à moins d'une nouvelle remise à plat des règles du jeu. Parce qu'entre-temps, je serai élu, moi. Donc il se passera des choses. Et collectivement, on essaiera de trouver une solution à cette histoire des retraites. C'est vous qui me direz ce qu'on fait. On en parlera. La meilleure solution ou la moins mauvaise pour notre pays, c'est ça qu'on essaiera de trouver. Exactement, quand je serai élu. Je serai élu, avec un Z. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, solennellement, Samuel Président. Voilà. Quel programme? On verra, on verra. De toute façon, on le fera ensemble, de toute façon. Est-ce que si je vote pour toi, je peux partir à la retraite à 37 ans? Faudra qu'on en discute. Benjo. Est-ce que tu baisseras les retraites géantes des boomers? On en parlera. Penses-tu que la retraite à 60 ans, c'est viable? On en parlera. Est-ce que la retraite dès la naissance, c'est possible? Compliqué. Hein? Voilà. Et Clubbing Mix est content, puisque maintenant qu'il sait que je serai élu, eh bien, il est Zemu. Est-ce qu'on fera une taxe Zuckman à 5%? Demande Lost in the Process. Bon, on parlera de tout ça de toute façon parce que ce sera très transparent. Ce programme, on le co-construira ensemble, en live. C'est-à-dire qu'on se posera des questions, puis pendant des heures, on échangera, on ira voir les solutions proposées par les uns et les autres. On en discutera et on essaiera de... Alors, pas de trouver la solution qui plaira à tout le chat, à toute la communauté, c'est impossible, on ne peut pas tous se mettre d'accord, mais celle qui semble obtenir l'assentiment le plus large possible. Voilà. Ok ? Ça nous fera du contenu. Voilà. Je reprends donc. La réforme reprendrait donc sa marche après la présidentielle, à moins d'une nouvelle remise à plat. De quoi confirmer techniquement le scénario d'un décalage finalement défendu par le président, en dépit du mot de suspension préféré par son Premier ministre. Ça joue un peu sur les mots, quoi. Ceci argue que l'avenir du système de retraite s'écrira en fonction du résultat des urnes en 2027. Ces gens-là savent, pour moi. Ils savent. Comme prévu, l'opération aura un coût. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Combien ça coûte ? Combien ça coûte la suspension de la réforme des retraites ? Évalué à 100 millions d'euros seulement en 2026, 1,4 milliard d'euros en 2027, pour encaisser ce surcoût, bah, un petit peu de sous, quoi. Sans compromettre le redressement des finances publiques prévu l'an prochain, le gouvernement propose de taxer davantage les organismes complémentaires, les assurances, les mutuelles. Les AESH, je les embrasse, Anastasia, je vous dis bravo. Bravo pour votre job, je sais que c'est dur, que vous faites ce métier dans des conditions extrêmement compliquées, et bravo. Donc, les organismes complémentaires, même si la logique d'une telle opération sera sûrement critiquée, dans le détail, l'exécutif compte augmenter le taux de la contribution exceptionnelle sur les complémentaires santé, déjà prévu dans le budget pour apporter 1 milliard d'euros, donc ça va monter de, on passera de 2% à 2,25%, La potion est amère pour les complémentaires qui contestaient déjà le bien fondé de cette taxe et qui vont la voir augmenter, quoi. Voilà. Promettant de susciter encore plus de remous politiques, le gouvernement compte surtout demander un effort supplémentaire aux retraités en 2027. Le projet de budget déjà sur la table prévoit que les pensions... Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Sickness 995 vient d'offrir non pas un abonnement, non pas deux abonnements, non pas trois abonnements, même pas 4, mais 5 abonnements à la communauté. Merci. Donc, dans le projet de budget déjà actuellement, là, vous avez déjà un effort demandé aux retraités. Je le rappelle, hein, le gel des pensions. Hein, sauf peut-être pour les plus petites pensions, mais c'est à vérifier. C'est-à-dire que les retraites ne seront pas revalorisées, notamment d'une partie de l'inflation, quoi. Ça, c'est déjà prévu. En 2027, toujours pour limiter le déficit, le projet de budget présenté la semaine dernière prévoit de faire progresser les pensions moins vite que les prix. C'est pour 2027. Gel 2026-2027, progression moins que l'inflation, avec un taux de revalorisation des pensions de 0,4 points inférieur à celui de l'inflation, pour être tout à fait précis. Oui, c'est sur Twitch, Guilla, Ventigria. Ah... Excusez-moi, j'ouvre un document que j'attendais très important. Ça marche pas ce truc. Ah, ça marche. Ah, si, ça marche bien. Super. Ça, c'est chez moi le WhatsApp, vous inquiétez pas. No te inquieta. Hombre. Et donc, des efforts déjà dans le projet actuel pour les retraités. Cet effort supplémentaire de 0,5% sur les pensions risque de faire réagir. Donc c'est quoi les 0,5% là ? Ah, c'est ça l'effort supplémentaire ? Ah oui ! Ah oui, parce que j'ai manqué le passage avant, je comprenais pas. La lettre rectificative va plus loin en prévoyant une sous-indexation des pensions de 0,9 points en 2027. Non pas de 0,4 mais de 0,9 en 2027. Il est là l'effort supplémentaire. De quoi rogner sur le pouvoir d'achat des retraités, sachant que l'inflation est prévue à 1,75% cette année. Cet effort supplémentaire de 0,5% sur les pensions risque de faire réagir. Trop technique pour moi. Non, Ventiria, je te le résume. la suspension de la réforme des retraites, qui est censée faire économiser de l'argent au budget de l'État, parce que si les gens partent plus tard en retraite, tu leur verses moins d'argent. Super simple. Donc la réforme des retraites, elle est censée faire gagner de l'argent à l'État, enfin, économiser de l'argent, moins dépenser. Si tu la suspends, eh ben, ces économies attendues, elles vont pas se produire. Et du coup, il faut trouver de l'argent pour compenser le coût de cette suspension. Ben là, notamment, ils ont dit, on va taxer les mutuelles, les assurances, et puis on va prendre un peu de pouvoir d'achat aux retraités. Alors, j'espère pas aux plus petites retraites, quand même, ça, c'est un truc qu'il faudra vérifier. En ne revalorisant pas, en n'augmentant pas les retraites de la hausse des prix de l'inflation. Voilà. Seulement d'une toute petite partie. Voilà, c'est tout simple, en fait. Hein, c'est tout simple. Il y a plein de mots techniques, mais c'est pas très compliqué. Salut, roule ta bosse, bonne journée. Voilà. Alors ça risque de faire réagir, bien sûr, hein, notamment à gauche, où le concept d'année blanche, c'est-à-dire d'absence de revalorisation des prestations à hauteur de l'inflation, est très critiqué. Hein. L'exécutif ne manquera pas de faire remarquer que lors du conclave sur les retraites, les syndicats, le patronat s'étaient montrés plutôt favorables à l'idée de désindexer les pensions. Ah. Pour équilibrer le système de retraite, promis à d'importants déficits, même si la réforme de 2023 restait en place. Ah ouais, le gouvernement va quand même rappeler aux syndicats et au patronat. Bizarre que tous les syndicats étaient d'accord avec ça, qu'à un moment, ils étaient plutôt d'accord pour désindexer les retraites sur l'inflation, pour faire des économies. C'est intéressant. Je vous lis un petit peu, et puis je vous lis un petit édito là-dessus. Qui est là, en bas à gauche. Là. Merci, Fab Jacques. Ombrulit écrit, « Merci les vieux, vous avez bossé toute votre vie et donné à l'État toute votre carrière. » Maintenant que vous avez besoin de l'État, il ne vous donnera pas ce qu'ils vous doivent quand vous avez signé le contrat. Je comprends la colère d'Ombrolite, mais moi je suis obligé aussi de me projeter dans le futur candidat à la présidentielle que je suis en 2027. On a un petit souci sur la réforme des retraites. Voilà. C'est-à-dire que c'est un super beau système. Moi je le trouve formidable. Je rêve d'arriver à la retraite. Pour permettre à ceux qui ont bossé toute la vie, toute une vie, eh bien, puisse à un moment se reposer un petit peu, quoi. Voilà. Notamment quand le corps commence à fatiguer. C'est un peu le principe de la retraite. En France, c'est une retraite par répartition, hein, donc, que moi j'aime bien qualifier de retraite un peu de solidarité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu cotises en tant que salarié, les cotisations retraite sur ta fiche de paie, ça n'est pas pour payer ta retraite à toi, c'est pas de l'argent que tu mets de côté pour toi. En fait, tu payes les retraites des gens qui sont actuellement à la retraite. Tu payes pour tes parents, pour tes grands-parents. Voilà. C'est ce qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, tant que il y a beaucoup d'actifs et de salariés et pas trop de retraités, ça va. Mais quand arrive à la retraite une génération très nombreuse qui sont les enfants du baby-boom, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale on a fait beaucoup d'enfants en France, et à un moment ces enfants ils sont arrivés sur le marché du travail ils étaient très nombreux à travailler, très nombreux à cotiser pour des retraités qui n'étaient pas si nombreux, donc ça se passait bien. Mais là en ce moment qu'est-ce qui se passe? Ces gens très nombreux arrivent à la retraite là actuellement, donc ils sont très nombreux, il y a beaucoup de retraités, sauf que ces gens n'ont pas fait autant d'enfants que la génération d'avant. On fait moins d'enfants en France qu'avant, de la même manière qu'on fait moins d'enfants d'ailleurs dans tous les pays du monde. Le taux de fécondité est en train de baisser dans tous les pays du monde entier. C'est comme ça. C'est pas forcément une mauvaise chose pour la planète Terre. Et donc, c'est juste des maths de base, niveau CP. C'est-à-dire que vous avez plein de gens à la retraite. Si, dans les pays émergents aussi. Ah oui, les gens, c'est... Attention, parce que je vous vois. Hein. Oui, attention, ça baisse pas dans tous les pays. Hein. Ouais. Il y a les pays... dans les pays auxquels vous pensez, là. Hein, je vous vois. Hein. Dans les pays auxquels vous pensez, là, où effectivement on fait plus d'enfants que dans les pays les plus développés, comme en France, par exemple, le taux de fécondité baisse aussi. C'est un mouvement, c'est un mouvement mondial, c'est un mouvement global. Alors, je ne dis pas le taux de fécondité de ces pays, il est... aussi bas qu'en France, mais il baisse aussi. Voilà. Il est plus haut que le nôtre, mais il baisse aussi. Voilà. Mais je vous vois. Hein. Je vous vois. Hein. je sais où ça nous emmène, ça. Les petits coquins, là. Donc, ça baisse aussi. Il suffit de se documenter, ça prend 2 secondes sur Internet. Hein. Donc, je reviens à mon calcul de CP. Vous avez plein de gens qui arrivent à la retraite. Les retraites sont financées par les cotisations des salariés. Et des salariés, il y en a moins. Ha ha! Donc, j'entends le « Ah ouais, Marie et les gars, ils ont bossé toute leur vie, puis ils arrivent à la retraite et on va leur dire qu'ils ont moins. » En fait, ben, c'est la question qui se pose à notre société. On a un problème. On a un problème de maths. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je n'ai pas la solution. Enfin, je l'aurai en 2027 avec mon programme qu'on va construire ensemble. Mais à un moment, dans quelques mois, je vais vous dire, on va se réunir ensemble pendant plusieurs jours sur cette question. Et on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va chercher l'argent? Où est-ce qu'on va chercher l'argent pour financer ce problème-là? Voilà. Est-ce qu'on donne moins aux retraités? Hein? Est-ce qu'on enlève à certains retraités? À tous les retraités? Est-ce qu'on demande aux salariés qui cotisent déjà pas mal de cotiser encore plus? Est-ce qu'on demande aux entreprises de financer encore plus? Est-ce qu'on taxe toutes les entreprises? Seulement certaines entreprises? Est-ce qu'on va chercher l'argent encore ailleurs? Est-ce qu'on augmente la TVA? Est-ce que... Voilà. Donc, des solutions, il y en a, hein. Mais ce sont des solutions politiques. Mais politiques au sens noble du terme. C'est-à-dire que, en tant que groupe, que société, que pays, eh bien, il faut que, bah, on se mette d'accord. Alors, le problème, c'est que, évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire. C'est-à-dire que, on est des dizaines de millions en France et on peut être d'accord sur le constat mais pas forcément d'accord sur les solutions. Donc certains vont dire moi je pense que les gens ils ont cotisé toute leur vie, ils ont le droit à leur retraite, peu importe si c'est très compliqué, il faut trouver de l'argent et puis vous avez les salariés, vous avez qu'à cotiser plus ou payer plus d'impôts. Voilà. Ou alors moi je suis pas d'accord, en tant que jeune actif je cotise déjà énormément, il y a un problème, il faut que tout le monde fasse un effort, et donc je pense qu'effectivement les retraités doivent voir leur pension baisser, en tout cas baisser en termes de pouvoir d'achat avec une désindexation par rapport à l'inflation. Est-ce que c'est tous les retraités, est-ce que c'est que les plus riches, à partir de quel niveau, est-ce qu'on préserve les petites retraites, tu vois, il y a plein de questions comme ça. Certains vont dire « Ah ben non, mais c'est pas aux salariés de faire des efforts, c'est pas aux retraités. Hein. C'est, on va prendre l'argent uniquement aux ultra-riches, par exemple. Hein. Ou alors que aux entreprises. Ou alors seulement qu'à une partie des entreprises, celles qui font le plus de bénéfices, etc. Ou alors on va jouer sur autre chose. On va créer un nouvel impôt, une nouvelle taxe. Toi, on pourrait créer un nouvel impôt, une nouvelle taxe exceptionnelle. Hein. Le temps que ce décalage cotisation-retraité... Parce qu'à un moment, ça va se lisser, ça. Parce que là, il y a un gros différentiel salarié-retraité à cause de l'arrivée de la génération du baby-boom à la retraite. Mais à un moment, ça va se lisser un petit peu, ça. On pourrait créer une espèce de taxe exceptionnelle, tu vois, en calculant avec des économistes, des démographes, en disant, en gros, pendant 10 ans, 15, je sais pas, 15 ans, il y aura une taxe exceptionnelle pour financer ce truc-là. Alors après, c'est pareil. La taxe, on l'adosse à quoi? On l'adosse, qui la paye? Voilà. Ouais, quelqu'un me dit, ça va se lisser dans 20-30 ans. Voilà, j'étais un peu sur ça, ouais. Voilà. Mais, vous voyez, ce qu'on ne peut pas faire, c'est chacun dans son coin, dans son chat, dire « Ah ouais, mais moi, je veux pas ça !» Quelqu'un disait tout à l'heure, moi je veux... C'est pas normal que les retraités qui ont cotisé toute leur vie, ils n'aient pas la retraite qu'ils devaient avoir. J'entends cet argument. Mais... Au moment où tu dis cette phrase-là, qui en soi ne me choque pas, tu dois aussi dire « Ok, mais qui paye alors ?» C'est-à-dire que moi je trouve ça tout à fait normal que quelqu'un me dise « Moi je veux pas ça, mais il faut qu'idéalement tu puisses dire dans la même phrase « Je veux pas ça, et du coup la solution pour moi c'est d'aller chercher l'argent là. » Sinon, on tourne en rond. Hein, sinon, c'est chacun se renvoie la balle, personne ne veut payer. Et du coup, notre problème, il reste là. Et à un moment, ça, au niveau de notre dette, ça va poser un problème. Quoi. Voilà. On est d'accord? Très bonne blague de Ronan qui suit l'actualité. On pourrait demander à la Libye. Libye, le pays, rapport au financement de la campagne présidentielle 2007 de l'ancien président Nicolas Sarkozy qui dort actuellement à la prison de la santé. Merci Fab Jacques pour le prêt. Très bonne blague. Bah, c'est intéressant en tout cas. En fait, la politique, au sens noble du terme, pas les ambitions de chacun les petites phrases sur X, hein, les envolées lyriques à l'Assemblée. La politique au sens noble du terme. La politique, c'est quoi? C'est la vie dans la cité. C'est, les gars, on est ensemble parce qu'on est tous nés au même, dans certaines frontières d'un pays qui s'appelle la France, ok? Voilà. On peut se plaindre de notre pays, mais il y a beaucoup moins bien loti que nous, okay? Donc c'est plutôt une chance déjà d'être plutôt né dans ce pays que dans un autre, hein. Bon, en tout cas, on n'a pas choisi de vivre ensemble, mais on est ensemble. Peut-être que ce qui serait cool, c'est que ce vivre ensemble se passe le mieux possible, et donc bah, il faut inventer des règles de vie ensemble, de vie en société, que sont les lois pour organiser le fait de vivre ensemble dans un collectif, dans le cadre d'un pays, quoi. Alors, évidemment, on aspire tous à des choses extrêmement différentes. Ouais, on n'est pas d'accord sur tout ça, et tant mieux d'ailleurs. On est en démocratie, donc chacun donne son avis. Et donc il faut s'organiser après. Et une des choses qu'on doit organiser, c'est qu'est-ce qu'on dépense collectivement pour l'éducation, pour la sécurité, pour la justice, pour la protection sociale, pour les retraites, qu'est-ce qu'on dépense? Et une fois qu'on a dit, voilà ce qu'on veut dépenser, pour bah, que ce soit pas la jungle, quoi, pour que collectivement, eh bien, on mette le doigt, qu'on fasse des efforts sur telle ou telle chose, quoi. Hein, créer un système d'éducation performant, etc. Une fois qu'on a défini les dépenses, eh ben, il faut trouver les recettes. Mais en fait, l'essence de la politique, c'est ça. C'est comment on s'organise pour vivre ensemble et la traduction financière de ça. En tout cas, c'est ma vision de ce que devrait être la politique. Voilà. Je continue après cette longue parenthèse. Bah non, c'est long, j'ai fini. Alors, on a un édito dans les Échos qui revient là-dessus, qui évoque tout ce que je viens de dire et qui va peut-être proposer. Bah oui. Galmendra, bonjour Samuel, si tu as le temps, est-ce que tu pourrais souhaiter un bon anniversaire à ma mamie Micheline, 86 ans aujourd'hui, elle te regarde beaucoup. Micheline, ok, attends, bouge pas. T'es prêt? Attends, je t'enlève le, ça va être plus joli. Micheline, bonjour, c'est Samuel Etienne, j'espère que vous allez bien. Quelqu'un dans mon chat sur Twitch, sur Internet, et qui manifestement vous aime beaucoup, m'a dit que c'était votre anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, je me permets de vous souhaiter un doux, lumineux et joyeux anniversaire. J'espère que vous fêterez ça dignement et joyeusement avec vos proches, avec ceux qui vous aiment. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bah, j'espère que t'as clippé et je vous remets le sommaire. Ça va lui faire plaisir. Bon anniversaire. Alors, qu'est-ce que pense Dominique Seux de tout ça? Alors, ce n'est que ce que pense Dominique Seux de tout ça. Merci PXL06. Hein? C'est juste une idée, un constat, son regard à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Sébastien Lecornu ne bat pas en retraite. Sébastien Lecornu ne bat pas en retraite. Ça, c'est bon, ça. Contrairement au procès qui lui est fait par les oppositions ce jeudi, vous avez la blague? Vous avez la blague? Ce jeudi, le Conseil des ministres adoptera une lettre rectificative au projet de loi de financement de la Sécu pour écrire noir sur blanc la suspension de la réforme 2023. Ok. Le temps de laisser passer la présidentielle, ça a l'air simple. Que nenni! J'adore cette phrase. Que nenni! Car en réalité, le brouillard est encore épais sur la suite des événements. Si le Premier ministre a choisi cette procédure de sécurité, c'est qu'il sait bien que le budget de la Sécu n'est pas du tout certain d'être voté à la fin des fins. Il doit par ailleurs composer avec un Emmanuel Macron qui a rajouté de la confusion, on l'a vu ce matin d'ailleurs, en minimisant la portée du cadeau fait aux oppositions. Sur le fond, la suspension est une mauvaise idée, mais cela n'a aucun intérêt de tirer contre son camp quand elle est décidée. En comparaison, la vérité sur les retraites est infiniment plus simple. C'est là où ça devient intéressant. Oh, merci Elnosage. Je ne mérite pas le message, mais il fait plaisir. Donc, qu'est-ce que dit Dominique Seux? Il dit, politiquement, c'est un peu compliqué les retraites. Macron, il dit un truc, le Cornu qui dit un truc, l'opposition socialiste qui attend un truc, on ne sait pas où ça va aller, quoi. Donc, je dézoome un peu. Tiens, d'ailleurs, ouais, c'est vrai que ça ne zoome pas très bien. Voilà, c'est mieux là. Et Dominique Seux dit, alors ça, c'est compliqué, on va dire l'aspect politique de cette histoire. Mais la vérité sur les retraites, comparément à ça, elle est infiniment plus simple. Les dernières données de l'OCDE qui seront publiées fin novembre et dont nous avons eu connaissance montrent que les Français partent en retraite 2 ans plus tôt que les Allemands. 3 ans plus tôt que la moyenne des pays développés. On part en retraite plus tôt que les pays comparables. 2 ans, 3 ans. Ce sont eux qui bénéficient de l'espérance de vie à la retraite la plus longue de tous les grands pays de la planète. Bon, et cocorico les gars. À un moment, on va arrêter de se lamenter. Hein. Les Français, les Françaises sont, dans les pays les plus riches, ceux qui ont l'espérance de vie à la retraite la plus longue, 22,5 ans pour les hommes, 26,1 pour les femmes. Ce sont les stats de l'OCDE. Ouais. La vérité, écrit Dominique Seux, en soi, c'est une bonne chose. Hein. C'est cool. Hein. La vérité, c'est que la démographie reste le seul point cardinal solide sur les retraites. On peut tourner le sujet dans tous les sens. Il n'y a pas de miracle permettant de cotiser et de travailler moins tout en augmentant plus les pensions. À point, la retraite à point, c'est un autre système, avec borne d'âge, avec âge pivot, hein, partir tôt implique de faire payer davantage les actifs ou de diminuer les pensions. Quid des impôts en plus ? Cela ne peut être, selon Dominique Seux, qu'un pis-aller, c'est mathématique. Alors, sur le constat, moi je suis d'accord avec Dominique Seux, sur le constat qu'on a un problème, qu'on a un sujet, mais... Il n'y a personne en France de sérieux, y compris chez les politiques, quels que soient les partis, qui dit pas qu'il y a un problème. C'est sur les solutions à mettre en œuvre que on diverge. Le premier qui diverge dans le chat, ça va chier. C'est sur les solutions qu'on diverge. Là, Dominique Seux, il dit bon ben, faut pas augmenter les impôts. Bah, c'est l'avis de Dominique Seux. Ah, mais arrêtez de dire verge. Arrêtez de dire verge. C'est le verbe diverger en un seul mot. J'en étais à chaque fois. Vous êtes incorrigible. Putain, moi, je serais. Vous seriez une classe, je serais un prof. Vous iriez chez le principal. Hein. Hein. Et vous me ramenez un mot comme quoi vous l'avez bien vu. Hein. Hein. Ah. Oui, 10, ça fait beaucoup en plus, oui. Diverge. Donc voilà. Démonstration, c'est QFD. Le constat, tout le monde est d'accord. Après, c'est sur les solutions, on n'est pas d'accord. Voilà. Il est trop mimes quand il s'énerve. Ah non, mais là, je m'énerve pas. C'est quand je joue sur Valo et que je prends des full têtes à 10 km d'un mec qui tire une balle de vandale comme ça au hasard, elle est pour ma gueule, quoi. Là, je m'énerve. Là. Je veux... Quoi ? Voilà. Bon, bah voilà. C'est intéressant. Pour 2027, on en parlera les chouchous. On est à quelle partie du sommaire ? Alors regarde Pierre, on n'est plus dans le sommaire, on est dans le dur. Et regarde, si tu regardes les petites flèches, tu vois, on vient de parler des retraites. Voilà, et là, on va passer au sujet suivant, la fin du secret sur les salaires en France. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 1h17. Je te mets même le timing sur Twitch. 1h17, comme ça, en replay, ils savent. Je vous mets la flèche sur TikTok également. Retraite, salaire. La fin du secret en France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a vite divergé vers le dur, exactement. Nous divergeons vers le dur. Enfin, on va connaître le salaire de Sylvie de la Comta. Bah, je sais pas justement, faut que je regarde ça dans le détail. Pouvoir voir le sommaire, c'est vraiment super. Merci Artus. J'ai pas bien compris le sujet, je patiente pour comprendre. Bah, moi non plus, Julien, j'ai pas lu l'article encore. Ouais. On va regarder si c'est vraiment un truc de transparence. Ouais. Une directive européenne que la France va transposer dans le droit français. Oblige les entreprises à être transparentes. Tiens, je me mets un peu de chill, là. Là, vous me voyez toujours, là ? Bien comme ça aussi. Attends, après, je trouve un autre. Il faudrait que je crée une amélioration de setup à faire. Moi, ouais, à une époque, j'avais un bras comme ça. Peut-être que je remette un bras, en fait. C'est PA notamment. Moi, au début, quand je streamais, j'avais un bras comme ça. Mais je trouvais ça moche, ça passait dans le décor. Je trouve pas ça très joli. Un bras articulé, là. PA, il a ça. Mais je trouve pas ça très joli, mais c'est quand même pratique. Ouais, c'est pratique. Mais c'est moche quand même, hein. Ouais, mais je pourrais être plus comme ça, ouais. PA se bat avec le micro tout le temps? Oui, je sais. Ouais. Merci, Barnagène. Ouais. On n'est pas là pour faire beau, t'es assez beau, ok. Quelqu'un me dit la photo du journal avec la meuf et ses yeux à moitié fermés est pas très flatteuse. Oui, c'est bizarre, oui. Bon, peu importe. Alors, une directive européenne que la France va transposer dans son droit oblige les entreprises à être transparentes sur la politique de rémunération pour lutter notamment contre les inégalités liées au genre. Hein? Ok. Le juste salaire, avant de rentrer dans le détail, on va lire l'édito, donc l'analyse avec un avis, de Lou Besmond de Senneville dans La Croix. La Croix, c'est un excellent journal. Sommes-nous prêts à la transparence totale des salaires? Vous êtes pour la transparence totale des salaires? C'est-à-dire que, je sais pas, tous les autres salariés connaissent votre salaire, et du coup tout le monde, parce que une fois que votre salaire sera public dans l'entreprise, bah du coup après l'info circule, quoi. Je vois beaucoup de oui, je vois énormément de oui. Vous savez quoi, on fera un sondage tout à l'heure. On fera un sondage. Ah ouais, vous êtes à fond sur oui. Pas oui la console, hein. Ouais. Alors c'est du oui, hein. Ok. Ça casse le tabou. Ok. En tout cas, une directive européenne, bientôt transposée en droit français, nous y contraindra sans doute bientôt. Je me mets un peu de chill là. Je suis bien là comme ça. Ça. Je vais poser le micro sur le bedou là. Voilà. Dans la culture française, hein, où l'argent demeure sinon un tabou, au moins un sujet sur lequel il convient de rester discret, cette nouvelle réglementation risque de bousculer bien des habitudes, dans notre rapport à notre propre travail, mais aussi à nos collègues. Oh putain, ouais. Aussi faut-il souligner que cette transparence ne sera pas sans conséquence. Elle peut aussi générer des tensions à l'intérieur de l'entreprise. Quoi? T'imagines la machine à café? Mais t'as vu Patrick? Mais t'as vu le salaire de Patrick? Mais il n'en fout pas une. Mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais je te le dis, putain! Il joue aux jeux vidéo sur son PC toute la journée. Toute la journée. Dès que Julien passe dans son dos pour vérifier, il clique et tout. Il est sur des tableaux Excel et tout. Il ne fait rien. Il a quasiment 15% de plus que moi. Hein? La régalade. Merci Corazon pour le soutien. Merci PXL. Merci Angie. Merci Corozen. Merci Spira. La régalade. Bravo Patrick le gamer déjà. T'as bien raison. Donc des tensions à l'intérieur de l'entreprise. Pourtant, l'intention derrière cette réforme est, on ne peut plus positive, puisqu'elle vise plus d'équité. Hein? Dans un pays où la question de l'égalité fiscale est au cœur des débats depuis la rentrée, en particulier autour de la taxation des plus hauts patrimoines, on aurait tort de négliger la question de l'équité. D'abord, cette directive peut avoir un impact réel sur bon nombre d'entreprises pour réduire enfin la disparité salariale entre hommes et femmes occupant des postes équivalents. Ensuite, cette plus grande transparence doit également enclencher des débats nécessaires dans les entreprises sur les écarts de salaire. Est-il justifié qu'un chef d'entreprise gagne 130 fois le salaire moyen de ses employés, comme c'est le cas dans l'entreprise du CAC 40? 130 fois. Le salaire moyen d'un patron du CAC 40, c'est 130 fois, non pas le salaire minimum, mais le salaire moyen dans son entreprise. Voilà. Dans notre société, on a parfois l'impression que la réflexion sur ce qu'est le salaire juste est trop rapidement écartée. Le juste salaire devient en chaque cas la vérification concrète de la justice, finalement, de tout le système socio-économique, écrivait Jean-Paul II, parce que La Croix, c'est un journal chrétien catholique, dans l'encyclique Laborem Exercens en 1981. Voilà. L'application de cette directive européenne pourrait être l'occasion d'y réfléchir à frais nouveaux. C'est intéressant, hein? Oui, c'est pas que le salaire, quoi. Alors, lisons vraiment maintenant dans le détail, parce que est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vraiment cette directive européenne transcrite dans le droit français, quand elle le sera, est-ce que c'est vraiment de connaître tous les salaires de l'entreprise. D'après certains, c'est pas tout à fait ça. Donc on va lire. On va lire. Je regarde si j'ai des messages ou j'attends des messages importants. Non, j'en ai pas. La France s'apprête à transposer donc une directive européenne, c'est les infos, qui oblige les entreprises à être transparentes sur toute leur politique de rémunération. Est-ce que la politique de rémunération, c'est les salaires? C'est peut-être plus compliqué. Un texte qui vise avant tout à lutter contre les inégalités liées au genre, mais qui pourrait entraîner un changement de culture dans un pays où l'argent reste souvent une question taboue. En tout cas, la Croix parle de révolution. Lisons. En matière de salaire, Victor, 32 ans, a toujours eu le sentiment de s'être fait avoir. Victor. Chef de projet dans le secteur des mobilités, il a découvert en échangeant avec l'une de ses collègues, qui occupe le même poste, qu'elle était payée 10% de plus que lui sur l'année. Victor, il l'a mauvaise. Alors, je viens de faire un bruit bizarre avec ma bouche, et il y a TikTok qui m'a mis « Si tu veux, tu peux supprimer le bruit de fond pour que les viewers puissent t'entendre distinctement. » Je ne rigole pas. Au moment où j'ai fait mon bruit avec la bouche, là, j'ai eu un message sur le live TikTok. Si tu veux, tu peux supprimer le bruit de fond. Attends, je recommence. Je recommence. Non, c'est bon. L'algo a compris que c'était moi. Que c'est génial. Hein. Comment ça, faut remettre les dents? Il me dit plus rien. Il s'est habitué. C'est assez horrible pour vous. Oui, je sais, je fais exprès. Donc Victor, il se rend compte que sa collègue, pour le même job, gagne 10% de plus que lui. Alors là, dans son ancienne entreprise, c'est avec surprise qu'il avait appris que les consultants juniors étaient mieux payés. Situation ubuesque lorsqu'on sait que Victor était le chef de mission. Ah ouais, dans l'entreprise d'avant, le gars était le chef de jeunes diplômé qui était mieux payé que lui. Victor, il l'a mauvaise. La Victor, il dit faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Situation ubuesque. À chaque fois, lorsque j'ai demandé des explications à mes supérieurs, on m'a répondu que c'était en raison de l'état du marché du travail. Mes collègues ayant été recrutés à une période de tension sur le marché, l'entreprise avait dû leur faire une offre supérieure pour les attirer. Hey ouais, Victor. Waouh. Agacé d'avoir été lésé. Victor parle ouvertement de son salaire, répondant à ses collègues qu'il questionne. Pas de tabou pour le jeune homme, convaincu que c'est le seul moyen de rééquilibrer le rapport de force avec la DRH qui joue de l'opacité hein, de la politique salariale lors des négociations pour les augmentations. Oh ! T'as Wallart qui écrit dans le chat « Victor est peut-être nul ». C'est pas très gentil, ça. C'est pas très gentil, quoi. Et Bobby qui dit, mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est que le problème, c'est que Victor, il ne demande rien, il ne négocie pas. Victor! Je vous raconte une anecdote que je ne vous ai jamais racontée qui est drôle. À mes débuts de journaliste, enfin, j'étais plus jeune journaliste, j'étais déjà présentateur. Donc, j'avais vu un CR d'embauche sur un truc, et puis vraiment, c'était une boîte où on bossait, mais comme des chiens, quoi. Enfin, c'était le rythme de travail était fou. Le turnover dans l'entreprise était énorme. Il y a 30% des gens qui partaient chaque année. Enfin bon, le projet était intéressant, mais on bossait comme des chiens, quoi. Et donc, arrive au bout d'un an, je crois, et puis et je suis convoqué par le patron de la boîte pour m'annoncer une augmentation salariale. C'est une boîte privée. Bon, dans le public, c'est encore plus compliqué. Et donc, ouais, 30% de turnover, c'est énorme. Ouais. Ah ouais, c'était spécial. Hein. Ouais, par an. Hein. Ouais. Et donc, le patron, très content, m'annonce mon augmentation. Quoi. Et vous allez voir, je suis vraiment un yakuza, moi. Et donc, je dis à ce monsieur... c'est le fou du bus. Écoutez... je vais vous rendre cette augmentation, parce que l'augmentation n'était pas folle, quoi. Elle était vraiment pas super, et franchement, tout le monde se barrait de la boîte, parce que c'était le taf était insane, quoi. Et donc, et j'ai dit, écoutez, cette augmentation, je ne vais pas la prendre, je vais vous la rendre, parce que je pense que l'entreprise en a plus besoin que moi, quoi. La tête du gars. Je crois qu'on ne l'avait jamais faite, celle-là. Et, non, mais c'est, non, mais tu peux pas faire ça, on t'augmente déjà. Ah non, mais je ne veux pas. Ah non, je ne veux pas être augmenté, je refuse. Je refuse cette augmentation. Voilà. Garde, non, en vrai, garde, je préfère ne pas être augmenté plutôt que d'avoir cette augmentation-là, quoi. Voilà. Et j'étais parti. Voilà. Et puis, voilà, puis après, je suis parti. J'ai pris un sans-solde d'un an après aussi. Parce que tout le monde se barrait de cette boîte. Et finalement, quelques jours après, je suis allé voir parce que c'était quand même c'était un peu spécial. Et j'ai dit, écoutez, j'aime beaucoup votre entreprise, mais c'est vraiment compliqué là. Les gens partaient en burn-out et tout. Et donc, j'ai dit, écoutez, laissez-moi m'en aller un an. Et puis, donc, c'est un congé sans solde. C'est-à-dire que tu gardes ton contrat de travail, mais moi, tu t'en vas. Et puis, on revient dans un an et on refait un point, quoi. Voilà. Et puis, je suis allé rebosser en radio pendant un an et je suis revenu. Et entre-temps, la boîte avait changé. D'ailleurs, c'était plus les mêmes dirigeants. Et après, je suis resté très longtemps. Voilà. C'était un congé sabbatique, exactement. Voilà. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote, quoi. Mais Victor, une augmentation, ils vont pas te la donner si tu la demandes pas, hein. On continue. Voilà. Mais donc, pour répondre à Victor, qui est un peu stressé sur tout ça, une petite révolution se prépare. Car la France s'apprête à transposer, avant le 7 juin prochain, une directive européenne qui va obliger les entreprises de plus de 50 salariés à être transparentes sur leur politique salariale. Déjà, les entreprises de plus de 50 salariés. Donc les PME, en dessous de 50, c'est non. Hein? Et ce, dès l'embauche, à être transparent sur la politique salariale. Ça veut dire quoi exactement? L'employeur qui ne pourra plus questionner un candidat sur son précédent salaire devra afficher sur l'offre d'emploi une rémunération. Ou au moins une fourchette. Pas un couteau ou une cuillère. Une fourchette. Voilà. Quand tu mettras une offre d'emploi, il faudra que tu donnes une fourchette. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. C'est bien, ça. Hein? Donc, le salaire sera pas à la tête du client. Ce sera déjà, tu auras une base, quoi. Ça va entraîner un effet boule de neige en interne, car les employés vont regarder les salaires annoncés. Et les comparer avec ce qu'ils touchent. C'est bon ça. Hein? C'est bon ça. Alors il faut pas que oui, il faut pas que la fourchette ce soit entre 20 et 200K, ouais. Ah oui, j'espère que ce sera un peu encadré, ouais. Oui, ça dépend de la taille de la fourchette, ouais. Ah oui, vous avez raison. Bah oui. Ah oui. Vous avez raison. Voilà. Un salarié ne pourra pas demander au RH le salaire d'un collègue en particulier, mais il pourra connaître le niveau moyen, donc avec cette loi. Donc tu ne pourras pas aller voir le RH en disant, dis donc Victor, il gagne combien? Ou Patrick, là, qui joue aux jeux vidéo toute la journée, il gagne combien? Tu ne pourras pas faire ça. Mais tu pourras connaître le niveau moyen de rémunération des collaborateurs qui accomplissent le même travail que toi. C'est pas mal, ça. Ou travail de même valeur. Alors après, peut-être que les entreprises, elles sont un petit peu floues, tu vois. Ah, tiens, je vois déjà le pré-shot dans l'intitulé des postes. Tu sais? Genre avec. Ouais. Tu vois, avec des intitulés bien flous, avec tout le monde sur le même, tu vois. Ouais. C'est pas mal ça. Mais enfin bon, l'intention est pas mal. L'employeur devra aussi communiquer les critères qui ont été pris en compte pour fixer la rémunération pour déterminer sa progression. Si les demandes se multiplient, ça va forcément accroître la charge de travail sur les équipes RH. Redoute un représentant des RH. Hein? Bon, hein? Les entreprises comptant plus de 250 salariés devront réaliser tous les ans, tous les 3 ans pour les entreprises entre 100 et 240 offres, un rapport avec le détail des salaires et les critères utilisés pour les fixer. En cas d'écart de plus de 5% à poste égal, notamment entre les hommes et les femmes, et sans éléments objectifs qui le justifient, par exemple le diplôme, l'expérience, la performance, des mesures de correction devront être prises. Ah! Ça, c'est pas mal. Donc les entreprises avec un certain nombre de salariés devront publier tous les ans ou tous les 3 ans un rapport avec le détail des salaires et des critères utilisés pour les fixer. Et si par exemple il y a des écarts de plus de 5% à poste égal homme-femme, il faudra expliquer derrière. Ah ah! Pardon, excusez-moi. Pour certaines entreprises, comme dans le secteur de la finance, cette quête d'égalité pourrait faire trembler les murs. Merci Simone, tu régales. J'en suis où là? C'est où les murs? Oui, au-delà de la culture du secret, se cache un problème de politique et de gouvernance. Fixer un salaire dans certaines entreprises, c'est une prérogative de la directive des directions générales. Ah, il y a Antoine qui dit, mais est-ce que les nuls seront aussi bien payés que les bons? Parce que les nuls, ça existe quand même. Alors, les nuls, c'est NULS, Antoine. Donc, si j'étais méchant. Non, je... non, non, je dirais. Non, non, c'est trop facile, ça. Tais-toi, Samuel. Chut! C'est pas parce que t'as pas dormi qu'il faut être gratuit comme ça. Donc, tais-toi, retiens ta blague naze et dis oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. En interne, le risque est aussi de voir émerger des tensions. Eh ouais. Les salariés pourraient avoir le sentiment qu'ils ne sont pas traités de manière équitable. Voilà. Et donc se démotiver, ce qui serait préjudiciable pour l'ensemble de l'équipe. Comment justifier tel ou tel écart? Hein? Quelle place laisser à la performance? Comment l'évaluer objectivement? Bah oui, c'est compliqué. En ce sens, l'exemple des primes au mérite qui sont multipliées ces dernières années est intéressante. Les salariés français sont très attachés à cette forme de rémunération sur le papier. Mais est-ce que quand on les interroge sur la manière dont ces primes ont été mises en place dans leur organisation, ils sont très critiques. Ils estiment que les primes sont décidées souvent à la tête du salarié, hein, et que ça ne reflète pas le travail accompli. Ah, et donc il y a un gros boulot qui arrive aussi dans l'entreprise de classification, hein, sur les postes. Là, il y a un groupe mutualiste qui a pris, qui a bossé là-dessus. Qui s'appelle VIV, VYV, et il a fallu établir une classification des emplois, hein, pour qu'on puisse bien comparer les salaires. 3 ans de travail, explique un RH. L'application de la directive nécessite en effet de construire une classification des postes considérés comme équivalents dans une entreprise, hein, et de passer en détail leur salaire. Et ouais, un exercice qui peut réserver quelques surprises. Chez l'un de mes clients, je me suis rendu compte que la rémunération des chefs de projet de grade 1 allait de 35 000 à 100 000 euros. Relate Sandrine. En réalité, derrière cet intitulé générique, se cachaient des missions diverses qui n'exigeaient pas le même niveau d'expertise. Bah oui. Merci Vichoni. Merci Corathon. Eh oui. Une fois cette classification faite, une grille des salaires pourrait être établie. Souvent, elle existe déjà dans les grands groupes. Mais pour les petites et moyennes entreprises et de taille intermédiaire, c'est une autre paire de manches. Elles ont une idée de l'échelle de rémunération, mais pas d'indicateur précis. En tout cas, une fois la classification et la grille posées, si des écarts injustifiés supérieurs à 5% entre un homme et une femme apparaissent, ils devront être corrigés. Mais qu'adviendra-t-il si un salarié qui s'estime lésé se voit refuser une augmentation? Imagine, dans un futur proche, tu as des grilles. Tu connais le salaire moyen au même poste que toi, tu as l'impression que tu es lésé. Tu dis, tu vas voir la RH ou le RH, tu dis donc, les comptes sont pas bons, Kevin. Si jamais le RH s'appelle Kevin, qu'est-ce qui se passera? Et si Kevin dit mais je m'en balèque, imagine, je m'en balèque, tu vois, imagine. Eh bien, le salarié pourra porter l'affaire devant le conseil des prud'hommes, à noter que la directive renverse la charge de la preuve. Auparavant, le salarié devait prouver que l'employeur l'avait discriminé. Maintenant, ce sera à l'entreprise de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. C'est pas mal ça. Alors, et pour justifier un écart, ben, l'entreprise, elle aura intérêt à convoquer, par exemple, une différence de diplôme, d'expérience, d'ancienneté. Si elle s'aventure sur le terrain de la performance, eh ouais, ah ouais, mais Gérard, oui, mais tu as le même diplôme que les autres, tu as la même ancienneté, mais t'en rames pas une, hein, Gérard, t'en rames pas une. Et Gérard dira, mais je suis pas d'accord. Tu vois, c'est comment tu mesures ça? Il est difficile de prouver que Louis est meilleur que François. Alors que souvent, si, quand même, Louis, par rapport à François. Souligne Malik Douadi, avocat associé au sein du cabinet Deloitte, qui est un grand cabinet d'avocats, selon qui les tensions sur le marché du travail pourraient être plus facilement utilisées pour justifier un écart de salaire. Ouais. En tant que RH, je trouve ça bien, me dit Niala Dupuis, qui a beaucoup plus de transparence. Ça convaincra peut-être, excuse-moi, les dirigeants d'être plus équitables. Et oui, François, c'est un bosseur. Ben oui, Diesel, ben oui. Antoine me dit Gérard est nul, Louis pas ouf, mais François insane. Ok. Les François, on vous voit dans le chat. Hein. Alors, il y a Debla qui s'inquiète de tout ça, qui dit, mais c'est vraiment nul en fait. Ça veut dire que ça va lisser les salaires et donc pas besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de bosser. Intéressant. Y a Himalaya qui dit que c'est cool pour diminuer les égalités hommes-femmes, mais après ça peut aussi avoir quelques effets négatifs, notamment sur la revalorisation au mérite. On ne va pas se mentir, on ne se donne pas tous au travail de la même manière. Dans mon équipe, il y a la moitié qui bosse, l'autre qui fait le strict minimum. Ce sont les premiers qui vont se plaindre, ça va être sympa pour la direction. Je vous lis, hein. Merci Zetsu. C'est gentil. Je n'ai pas la réponse à ta question, mais je peux essayer d'y répondre quand même. C'est Sanso. Question de Béotien, mais vraie question, pourquoi appliquer ceci aux entreprises seulement de plus de 250 salariés? Alors c'est à partir de 50. Le début de l'application de la loi. Après, il y a d'autres règles quand tu passes les 250, mais c'est à partir de 50. Sachant que la plupart d'entreprises en ont moins. Ben, je pense que parce que le législateur européen qui est à l'origine de la directive estime peut-être que les petites entreprises de moins de 50 salariés, elles n'ont pas forcément les structures administratives, juridiques, RH, pour tanker ce genre de travail de grille et tout, quoi. Tu vois? Toi, c'est encore de la paperasse, quoi. C'est un bon début pour devenir politicien. Je n'ai pas la réponse à votre question, mais je peux essayer d'y répondre. Oui, Fabrica. Mais moi je ferais classique, moi je ferais pas ça. Moi, en plateau, je dirais, écoutez, Madame Salamé. C'est une très bonne question. Je vais vous dire, même si votre question, elle est essentielle. Elle est essentielle. Mais permettez-moi tout d'abord de dire quelque chose. J'ai interviewé des politiques pendant 30 ans, je peux dire que je suis imprenable. 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 Madame Salamé, d'abord, je voudrais saluer la qualité de votre travail journalistique, parce que cette question, tout le monde se la pose. Tous les Français se la posent. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Mais permettez-moi d'abord de vous dire quelque chose. Et là, bam, tu dis ce que tu veux. C'est imprenable. Puis comme en télé, tu as un temps limité, en plus, c'est hyper chrono. Une fois que tu as fait ta longue tirade, tu vois, sur ce que tu voulais dire, tu vois, et bien à chaque fois, on essaie de t'interrompre, tu vois, pour te poser la question. Tu dis, attendez, attendez, je vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. J'ai écouté votre question. Laissez-moi y répondre. Mais je vais y répondre. Après, tu reprends ce que tu voulais dire. Hein, puis le chrono, il défile. Et puis t'arrives à la fin de l'émission, t'as dit que ce que tu voulais, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des interviews politiques, parce que en fait le jeu il est pipé, il est faussé, parce que les gens que tu reçois, les hommes et les femmes politiques, maîtrisent aussi bien l'exercice que toi. Ils donnent des interviews depuis aussi longtemps que tu fais des interviews, et donc à moins d'être vraiment un perdreau de l'année, un tout jeune à te lancer en politique, ou alors vraiment t'es très mauvais. Bah, tu sais très bien comment utiliser l'exercice de l'interview pour dire exactement ce que tu veux faire, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire. Parce que c'est pas vraiment un travail d'actualité ou de sincérité, c'est un travail de théâtre. Pour les deux, d'ailleurs, pour le politique et pour celui qui interview. Le politique qui se sert de l'interview pour faire passer les infos qu'il veut faire passer. Et le journaliste qui le sait très bien, mais qui, à un moment, se met dans une position de comédien. D'acteurs, en interpellant le téléspectateur et l'auditeur en disant, vous voyez, je fais bien mon boulot, hein, je pose bien les questions. Voilà. Bon, à un moment, qu'une fois que tu as compris ça, tu te dis, ouais, flemme. Et donc, si moi je suis candidat, bah, évidemment, j'userai et j'abuserai de ces artifices. Voilà. Non, 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 non. Nous, on fera autre chose. On nous mettra nos. Hein, on les mettra sur la table, nous. Hein. Tu vois, on ira cash, quoi. Est-ce que tu vas continuer Twitch quand tu seras président? Oui, bien sûr. Tous les matins, on fera un grand live en direct de l'Élysée. Ouais. Peut-être que la transparence paiera. Je suis pas sûr, Julien. Je suis pas sûr. On est dans une société où quand tu dis vraiment ce que tu penses, t'es pas forcément récompensé en fait. Tu joueras plus à Valo? Si. Voilà. Je jouerai à Valo uniquement sur le serveur France, Paris. Voilà. Et je ferai bien passer le message à tous mes adversaires en solo queue que si je perds la game, si je perds des RR sur Valo, voilà, on ira chercher les pseudos. Les services de l'État, le fisc par exemple, ira voir derrière le pseudo quel est l'individu qui m'aura battu. Voilà. Et on verra si tout est en règle. Voilà. Voilà. Et donc, moi, je laisserai la liberté aux gens qui joueront avec moi, hein, d'être performants ou pas. Voilà. Mais je les préviendrai que voilà, le pseudonymat ne protège pas, que derrière un pseudonyme, il y a une IP, il y a un individu, et que voilà, il peut être une bonne idée, hein, pour l'humeur du président et quelque part pour la France, d'avoir l'intelligence de perdre une game. Voilà. Non, je plaisante, bien sûr. Non, on continuera à jouer aux jeux vidéo pour se détendre, ouais. Monsieur le Président, une crise. Qu'est-ce que tu vois là? Battlefield 6. Le jeu est un enfer, je ne comprends rien, je ne vois pas les ennemis. Alors d'abord, je règle cette urgence, après on voit pour ta crise. Toi. Je pense que ce sera un quinquennat intéressant. Un gamer président, on est mal barré. Je mettrai une douche. Merci Kira, tu régales. Merci Vichonni. Merci Yanouf. Merci Mimi Sylvana. Merci Grindy. Attendez, c'est pas terminé. Ah bah si, on l'a lu. Si, on l'a lu. Ok, d'accord. Thibaut InShape. Mais imaginez que je le fasse vraiment. Imaginez que je le fasse vraiment. Imaginez vraiment qu'en 2027, voilà, j'aille chercher les 500 signatures, que je vous mette à contribution la communauté pour aller dans vos localités, vos villes, vos villages, pour aller demander avec un gros dossier PDF que je vous aurais préparé pour expliquer notre projet, 1h47. Voilà. Demandez à vos élus de me donner leur signature pour qu'on arrive aux 500 signatures. 500 signatures nécessaires d'élus pour pouvoir présenter une candidature à la présidentielle en France. Imaginez ça. Et imaginez qu'après, pendant plusieurs mois, eh bien, tous les jours, cette réflexion sur l'actualité se transforme en réflexion sur un programme, sur ce dont notre pays a besoin. Voilà. Alors d'abord, ce serait extrêmement intéressant sur un plan de contenu. Ah, j'ai un message d'un streamer que j'aime beaucoup. C'est gentil. C'est Marcus qui est trop cool. Et donc ce serait très intéressant déjà tous les jours de dire allez les gars, bon dans l'actu on voit les problèmes, mais essayons de réfléchir ensemble. Et puis peut-être de développer des éléments de programme comme ça. En passant parfois, je sais pas, tu vois, une question sur la question des retraites, par exemple, on pourrait y passer plusieurs jours. Tu vois, plusieurs jours de débat, et après, bon, bah, on arriverait à des propositions qui ne seraient pas forcément les propositions de tout le chat. Hein, je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord sur le truc, mais on dirait, j'imagine que sur certains sujets, il y aurait une proposition comme ça qui plairait au plus grand nombre, on va dire. Voilà. On travaillerait comme ça, en disant, bon, et puis à la fin, ça deviendrait un programme. Et je dirais, honnêtement, bah, c'est pas le programme de tous mes viewers, mais c'est le programme qui a été défini avec l'assentiment de la majorité, on fera des sondages, des viewers, quoi. Voilà. Et après, ce programme, on va le présenter. Donc imaginons que, bon, il se passe rien et que tout le monde trouve ça totalement farfelu, bon, bah, et que je sois crédité de 0,01% des voix, genre même c'est pas mesurable par les sondages, bon bah voilà, ce sera une espèce de vanne effectivement, mais restera ce travail de réflexion sur l'actualité et sur les défis qui se posent à notre pays, quoi. Vous voyez, voilà. et puis hein, donc ça c'est, puis il y a l'hypothèse où je suis élu, okay. Hein, la photo présidentielle, là il y a toujours la... Il y a une photo, quand tu deviens président, il faut faire la photo officielle, celle qu'il y a dans les mairies. Et avec le petit PC de gamer au second plan, tu sais, avec les petites lumières, les petites LED, la petite ventilation là, tu vois, la machine de guerre, tu vois, avec un écran là, bien, bien, tu vois, un petit peu au-dessus. Non, pas le casque de gamer, non, tu vois, plus subtil au deuxième plan, tu vois. Toi, même double PC, tu vois. Pas mal, ça. Avec ta chaise trouée de gamer, t'es fou, quoi. C'est une chaîne de compétition. C'est une chaise de compétition. Je garderai la même chaise, on fera des économies. Qu'est-ce que vous voulez comme chaise, monsieur le président? T'inquiète, j'ai ma chaise. Ou une photo de toi en slip avec un gros monsieur chibre incrusté dessus, plus l'écharpe. Non, les gars, je serai l'image de la France, hein, je serai l'image de la France, faut respecter quand même. Vous êtes fous, quoi. Non, les gars, non. Tu es bien trop sensible pour être président. C'est pas faux, il y a un peu de sensibilité dans ce petit corps, mais je sais élever mon niveau de jeu. Ah, par exemple, en ce moment, une petite séquence un petit peu tendue là sur les réseaux, là. Tout va bien. Et ça gère. Donc non, je vous ferai le truc bien. Et tu invites qui comme président une fois élu? Les gamers, quoi. Tu sais quoi? Et on résoudra les problèmes, les tensions internationales en mode e-sport. Bon, par contre, il faudra que je trouve quelqu'un pour me représenter, parce que si c'est moi qui représente les intérêts de la France en e-sport, on va perdre beaucoup d'arbitrage, quoi. Bon, Thibaut InShape. Alors, Thibaut InShape, c'est quelqu'un que je connais pas très bien. C'est quelqu'un dont on n'a jamais vraiment parlé ici, parce que j'avais jamais trouvé d'article sur lui. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des articles sur les sujets dont je parle. Et puis, je sais que c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent, qui provoque beaucoup de réactions positives ou négatives, quoi. Voilà. Personnage controversé, comme dit Sugar Frog. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui est controversé chez lui? Qu'est-ce qui provoque tant de réactions un peu, comme on dit, épidermiques? Et donc, il sort un livre. Et du coup, dans les médias, bah, on en parle. Par exemple, je crois que vous me disiez qu'il était hier soir dans Quotidien. Voilà. Et là, il y a une page dans Le Figaro. Alors, lisons, et puis je vous lis, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, quoi. Premier youtubeur de France, par le nombre de followers, hein, pas forcément par les stats de ses vidéos. Salut mon pantoufle. Avec ses presque 27 millions d'abonnés, le trentenaire accro au sport publie Thibaut in Shape derrière la lumière aux éditions Amphora, et récit où il raconte son parcours vers la gloire avec sa frénésie et ses revers. Lisons. Lisons, puis après, je vous lirai vous. Thibaut in Shape est aussi baraqué que bavard. Très spontané, décontracté, Thibaut, de la part de son vrai nom, a réponse à tout, revendique même une certaine liberté d'évoquer tous les sujets sans tabou. Le trentenaire reçoit en Marseille, dans sa salle de sport de la Côte Basque, où il vit avec son épouse, sa chérie, comme il dit, Juju Fitcats, qui était venue participer à un téléthon avec moi. Ça va pour tout? Elle aussi influence, ce sont deux créateurs de contenu. Tout est parfait, il prend la pose quand on lui demande, ses cheveux sont bien coupés, le sourire scintille, et les muscles sont saillants, mais sans exagération. J'aime bien ce portrait. J'aime bien ce portrait. Mais sans exagération. Et ses cheveux sont bien coupés. Il est bizarre le portrait par contre. Pourtant, derrière cette apparente légèreté, rien n'est laissé au hasard chez ce natif de Haute-Garonne, notamment ce corps qu'il a affûté au fil des années grâce à des séances de musculation quotidienne et une alimentation hyper protéinée. Un galbe maîtrisé, dont il a fait son outil de travail, sa vitrine, grâce à des vidéos de fitness visionnées des millions de fois sur les réseaux sociaux qui l'ont mené jusqu'à la gloire. Habitué à se livrer face à la caméra, il se raconte vite avec son accent méridional, que je ne vous ferai pas, parce que je ne fais pas les accents. Après une agression à la batte de baseball quand j'avais 17 ans, j'ai bêtement voulu être musclé pour faire peur. Je me suis lancé dans la musculation, puis dans la vidéo, je me suis plus jamais arrêté car il y avait de plus en plus de gens pour me suivre, et pour réussir, je me suis inspiré du fitness, répété, toujours répété, pour se perfectionner et atteindre ses objectifs. Les chiffres dans le vertige. Après une décennie de vidéos quotidiennes, dont plusieurs interviews et reportages à sa sauce, il frôle les 50 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux et s'appuie sur son entreprise familiale qui réalise 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des millions qui lui permettent d'être le premier youtubeur de France et de représenter par conséquent une parole, au point d'avoir interrogé Emmanuel Macron en mai sur France 2 au sujet de l'obésité des petits Français. Voilà. Or, on l'a dit, il n'est pas qu'un physique, écrit le journaliste qui s'appelle... Merci pour l'abonnement anonyme offert à l'ami pantoufle Jean-Baptiste Semerjian. C'est le journaliste. Il n'est pas qu'un physique. En plus de distiller ses conseils sportifs, Thibaut in Shape se veut proche de sa jeune communauté avec laquelle il partage son quotidien, ses opinions, de son ancienne addiction à la pornographie jusqu'à la sédentarité des jeunes en passant par le partage des tâches dans le couple. Une sorte de tribune où un homme seul, en débardeur toujours, disserte devant l'équivalent de la population de l'Espagne. Oui, c'est le nombre de followers. Ok. Exercice certes populaire auprès de sa communauté, mais risqué. Bien sûr, je suis parfois maladroit, mais quand autant de gens vous suivent, chacun se fait sa propre idée. On m'insulte avec tous les termes qui finissent par « phobe », dit-il. Oui, j'en ai vu dans le chat. Sauf « claustrophobe », grince-t-il, rodé aux tornades de critiques. Comme la musculation véhicule une image virile, les gens font des amalgames et disent que je suis masculiniste. On m'accuse aussi d'être raciste parce que j'avais publié des propos idiots après mon agression. Depuis, je me suis excusé, mais ça va me suivre toute ma vie. Plus récemment, on a dit que je faisais le jeu de l'extrême droite parce que j'ai un drapeau bleu-blanc-rouge dans ma salle de sport et que je n'ai pas appelé à voter contre le RN aux législatives. Voilà. Alors quand je peux, je m'explique. Une hardiesse face à l'incessant revers de la notoriété numérique que sa femme, donc la créatrice de contenu Juju Fitcats, souligne. Alors que beaucoup de youtubeurs dont je fais partie sont extrêmement lisses pour ne pas se fermer de communautés, de projets, Thibaut va sur des terrains parfois sensibles. Il essaie, se lance et reconnaît systématiquement ses torts quand il se trompe. 50 millions d'abonnés, c'est pour le meilleur et pour le pire. InShape est l'incarnation de l'adage bien connu. Une grande communauté implique de grandes responsabilités, explique une experte des réseaux sociaux. Il est plutôt intéressant cet article, il y a plein de choses dedans. Après 2 heures à questionner le phénomène InShape, qui, sous une apparence de grande franchise, ne se mouille pas plus que dans ses vidéos bien orchestrées. C'est dans le Figaro, mon Peter Louis. On le pousse sur l'utilité pour un influenceur d'écrire sur un livre, parce que Thibaut Inchep écrit un livre. Je veux que mes enfants et le grand public depuis 30 ans puissent se souvenir de tout ce qu'on a fait. J'aimerais qu'on se dise que j'ai aidé à sortir de la sédentarité, que j'ai démocratisé le sport, le fitness. Dans une époque où la santé mentale est si importante, bouger c'est vital, il faut lutter contre la flemme que nous avons tous. La société de la flemme ne lui correspond effectivement pas, et c'est peut-être ce qui le rend encore plus intriguant avec sa volonté de maîtrise totale, ses journées chronométrées, ses plats pesés au gramme près, au moins 10 000 pas par jour, son rythme de production effréné, c'est son paradoxe. Il est à la fois très discipliné sur certaines choses, mais sur d'autres points, il veut tellement aller vite qu'il peut bâcler pour en finir ou diffuser le plus rapidement possible. On aimerait qu'il soit moins vif, moins rapide, plus posé, pouvoir boire un café tranquillement avec lui, par exemple, chose impossible. Aujourd'hui, regrette ses frères et ses sœurs dans le livre. C'est eux qui disent ça. Quand il nous accompagne dans son SUV, pas vraiment tape à l'œil l'autre journaliste, où il écoute les infos en continu, on évoque un cauchemar. Et si cet empire numérique s'évaporait, que les millions de vues qui boostent l'ego faisaient pchit. Pour une fois, il se reprend avant de répondre. Plus jeune, je voulais être militaire ou coach sportif. Si je perdais tout, j'aurais la rage, mais ce serait un nouveau chapitre et je ferais autre chose avec la même discipline. En revanche, il faudrait qu'on m'impose ce changement car je me suis peut-être piégé avec ce rythme, cette tentation de toujours vouloir faire plus grand. Et très vite, comme un réflexe face à cette pointe de lassitude, il se persuade que c'est comme dans la musculation, quand on s'arrête, on grossit ou on maigrit et ça n'est pas bon. Voilà. Voilà pour cet article sur Thibaut InShape. Je vous lis. Alors Sugar rappelle certains de ses tweets polémiques. Rien à foutre de ta dépression. C'était quoi le contexte? Rien à foutre. C'était quoi le... J'ai trouvé. J'ai un article dans le Midi Libre. Ok, je vous le montre. Tac, tac. Twitch, vous l'avez. TikTok, je vous la mets. Tac, tac, tac. C'est quoi cette histoire? On va essayer de revenir sur certains de ses propos. Rien à foutre de ta dépression. Thibaut InShape dérape et crée la polémique avec sa vidéo de musculation. Voilà. Ce samedi 4 juin, on était en 2022, donc c'était il y a 3 ans, le youtubeur Thibaut InShape a diffusé un clip de motivation en faveur de la musculation qui fait vivement réagir. Son discours ne passe pas. Ce dimanche 5 juin, Thibaut InShape s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle polémique après avoir posté un TikTok qui s'est mal passé. En effet, son nouveau clip de motivation en faveur de la musculation a mis le feu aux poudres. Réveille-toi putain de merde, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Oui, d'accord. A-t-il lancé dans le début de son clip, diffusant des images de lui-même en train de faire de la musculation et contracter ses muscles. Et terminé, arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation, arrête de gaspiller ta vie, lève-toi tout de suite, get up, stand up, get up. Ah, c'est cette vidéo-là? D'accord. Putain, il est musclé quand même. Si le but du contenu était de convaincre ses abonnés de se mettre au sport, le sudiste de 30 ans, qui est vite à Paris dans les tendances Twitter, ne s'est visiblement pas fait comprendre des internautes. Vous êtes très nombreux à me dire qu'après, d'abord il a reconnu l'erreur, il a fait, je crois, une vidéo avec un psy, c'est ça? Il y a Kitty, il me dit, le gars est juste super maladroit, quoi. Tu vois, c'est vrai qu'après, il y a eu une vidéo avec un psy, je crois, et il s'est excusé, hein. Faut essayer d'être complet aussi sur le truc, tu vois. D'ailleurs, à l'époque, il disait quoi? J'ai fait un TikTok motivation pour encourager les personnes qui se sentent mal dans la peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas bien compris comme ça, a-t-il regretté maladroitement. Et de poursuivre, la dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. C'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété. Ouais. Le youtubeur n'en est pas à son coup d'essai. En 2018, donc ça remonte un petit peu, il avait choqué avec des vidéos YouTube tournées à Auschwitz. Ça, on m'en avait parlé aussi. En 2018, pardon, l'année suivante, c'était une vidéo sur le métier de thanatopracteur qui avait déplu en raison des corps de défunts qu'il avait filmés. Oui. Ok. Il y a Mika qui dit le top, c'était sa prise de parole sur l'homosexualité. C'est vous qui vous faites enculer. Non, alors laissez-les. Je comprends la démarche, mais c'est très maladroit. Ah, d'accord. Oui, il est maladroit, quoi. Il y a Nefas qui dit il est très maladroit à certains niveaux, mais ce que je trouve honorable, c'est qu'après, il essaie toujours de se remettre en question et de voir pourquoi il a fait des erreurs. Sugar, notre ami Sugar, je sais que tu n'as pas beaucoup de sympathie pour le personnage. Toi, tu dis le madresse n'excuse pas tout. Ah. Alors, et Bardino qui dit c'est pas un enfant, il a toujours dit plein de conneries pour juste buzzer. Après, il y a une équipe de com. C'est pas un lycéen qui a un compte TikTok. MMG dit on peut parler de tout et de n'importe quoi, c'est un devoir, mais il faut savoir le faire dans le respect en expliquant bien la démarche voulue. C'est facile de s'excuser, me dit Turco. Quand le mal est fait, c'est plus difficile de faire attention à ce qu'on dit, notamment quand on veut faire passer un message. Je tiens à préciser, me dit Turco, que je connaissais pas tant le mec, donc j'ai pas d'avis en soi, quoi. Après, moi je connais pas hein, l'histoire de Thibaut InShape, mais j'ai l'impression que ces tweets polémiques remontent un peu, non? Ça remonte un petit peu, non? J'ai l'impression que ça s'est apaisé, non? Je vous lis. Ouais, putain, ça vous fait plus réagir que les retraites, hein, Thibaut InShape, c'est fou ça, hein? Ça va trop vite, j'essaie de vous lire. Tu vois, il y a Kik qui dit on parle de maladroit, mais est-ce que c'est pas un stratagème pour augmenter les vues? Le point de vue qui vaut mieux une polémique et revenir dessus que d'être noyé dans l'anonymat. C'est un stratagème qui est probablement utilisé par beaucoup de gens. Il est juste plus en vue que d'autres. J'ai l'impression que tous ceux qui disent qu'il ne faut pas excuser tout ça, me dit Johan, ne regardent pas son contenu, le critiquent qu'au travers de ses polémiques. On reste humain, être adulte ne signifie pas être irréprochable, me dit Amboulette. Putain, c'est un message chez moi, ça j'ai rentré alors. Alors sur l'histoire où il n'a pas invité à voter contre le RN, puisque l'article en parlait, Juju DeVos 59 nous dit il a invité sa communauté à aller voter en expliquant que ce n'était pas à lui d'indiquer pour quel parti il fallait ou non voter. Ouais, Diane, vous êtes des grands, hein, sérieux là. Je vais mettre un peu de motivation sur. Je vais mettre un petit peu de motivation sur. De modération sur TikTok, mais vous êtes des grands. Hein. Voilà. Diane, j'essaie de voir qui spam, mais pour l'instant, je vois surtout ton message, Diane. Donc. C'est Boubin. Ok. Alors arrête de spammer Diane, comme ça je vais pouvoir voir les spams de Booba. Booba, je t'ai jeté à l'œil. Attention, mon radar à Booba est allumé. Booba le rappeur ou Booba le petit ourson? C'est bon, il a été ban? Bon bah c'est bon alors. Merci Framboise. Allez, mais en même temps arrêtez de spammer là-dessus quoi. Parce que du coup j'arrive pas à lire les commentaires sur Thibaut InShape s'il vous plaît. Il ne s'excuse pas. Il se remet en question. Il se remet pas en question. Il dit toujours qu'on l'a mal compris. C'est ça qui me gêne, me dit Mélie Lasagne. Très bon, Lasagne. Merci Framboise pour ton travail. Merci beaucoup, c'est gentil. Travail de modération. Je vous lis, hein. Okay, j'ai l'impression que vous êtes un peu sceptique sur le personnage, quand même. Il signait les tchouches des meufs à l'époque, mais il a arrêté ça. Mais en vrai? En vrai ou pas? En vrai? Je vous lis, hein. Je suis en train de vous lire parce que moi, je vous dis que je connais pas trop son contenu. Est-ce que c'est possible que le contenu redémissionne après ce qu'a dit Macron? D'après ce qu'on a lu ce matin, le Luberlu, non, en vrai. Voilà, c'est des petites tensions, mais. Le point essentiel, estime TikTok, c'est qu'il a motivé les gens à faire du sport. Il y a un chat pristique qui dit « Thibaut, c'est un gars bien, pourquoi il faudrait être lisse pour plaire ?» Beaucoup le critiquent, me dit Enaric, parce qu'il aime la France et c'est mal vu par certains. Je comprends pas la haine que vous avez envers ce mec, me dit Axur. Et là, tu vois, je lis des messages un peu dans les deux camps, là. Je l'apprécie pas plus que ça, mais bon, abuser, faut pas abuser, les erreurs on en fait tous. Tout simplement, moi je me bats contre une dépression et ces paroles sont dangereuses. Sauf qu'en fait, Roulio dit, ouais, mais c'est pas une personne comme les autres, c'est quelqu'un qui a une grosse influence. Qu'a une grosse communauté. Et donc, grosse communauté, grosse responsabilité. Voilà. Bah, c'est ce que dit Folgo Hudson dans le chat à l'instant. Quand tu as autant de gens qui te suivent, tu as un devoir de tourner deux fois ta langue dans ta bouche. Mathieu Burgalassi. Créateur de contenu que j'aime beaucoup, termine sa vidéo sur Thibaut Inchep. Ah, Mathieu, il a fait une vidéo sur Thibaut. En se posant la question de l'excuse et de comment on peut accepter des excuses. Ok. Framboise me dit, perso, il m'a mise mal avec ses messages grossophobes et antidépressionnaires. Ce qu'on reproche, c'est pas d'avoir fait une boulette, me dit Paris, c'est magique. C'est de ne rien faire ou de ne pas plus en faire, plus en faire. Quand tu as une audience aussi grande et jeune, tu dois faire attention à ce que tu dis avant de le faire. Alors, moi, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que quand tu as une audience importante et quand tu as une audience jeune, tu dois d'autant faire plus attention à ce que tu dis oui. Ça, oui. Je comprends. Il y a Gates qui dit c'est un mec vrai et simple. Je trouve que ça manque dans le monde. Alors Sam estime qu'il n'est pas grossophobe, juste il a envie que tout le monde soit en bonne santé. C'est intéressant que ce débat vous. Enfin, vous. Enfin, ça segmente autant. Nono qui dit c'est le seul youtubeur à inviter des personnes de tous milieux et à leur donner des tribunes, se fait allumer uniquement pour des polémiques, mais personne ne voit le positif dans de nombreux projets. Bon, Chantal, toi tu le kiffes pas trop, toi, je vois. Voilà, Kiruno dit le mec met en avant des gens en situation de handicap, il incite à faire du sport, il y a des gens qui l'insultent pour rien. Mmh. Merci Panda, je vois ton message à l'instant. Merci pour ton premier message, c'est gentil. Tout va bien, moi, tu sais. Tout va bien pour moi. C'est gentil de m'écrire. Ok. Tiens, passe-moi le sel. C'est son premier message dans le chat. Bonjour, vraiment, je reste convaincu que c'est vraiment un mec qui a plein de bonnes intentions et fera sans doute encore de grosses boulettes. Mais c'est un homme qui a fait de la muscu et sorti une vidéo pour remettre en place les masculinistes, ou encore a reçu une personne transgenre pour une interview qui a été hyper respectueuse. Merci Silent Cheetah. Bien sûr que j'ai vu ton message et merci pour ton 25e mois. Merci à un chasseur sachant. Merci pour l'abonnement offert tout à l'heure. Ok. Oui, les émissions de les en fait les émissions de l'après-midi, c'est-à-dire oui, la revue de presse d'hier après-midi est normalement elle est sur Spotify, ouais. Les dédicaces à 40 euros, c'est lui aussi. Attendez, c'est vrai ça? 36 euros la vidéo dédicace, me dit Dafleur. Attends, c'est vrai ça? Non. Dédicace payante. C'est vrai ça? Moi aussi je fais des dédicaces, mais je vais les faire payer alors. C'est possible ça? On peut faire ça? Cher? Ça existe toujours? C'est possible. Est-ce qu'il le fait toujours? Alors, il a expliqué pourquoi il faisait ça à l'époque. C'est fini depuis des années, me dit Glizzwork. Ok, d'accord. Il a arrêté. D'accord. Ok. D'accord, ok. Je cache mon le téléphone qui s'affiche là. C'est un 06 que je connais pas. Ok, d'accord. Squeezie l'avait taillé là-dessus, gros bad buzz, ok. Ok. En tout cas, alors je le subodorais, le supputais, le soupçonnais, mais je vois qu'effectivement, le personnage, Thibaut Inchep, est clivant, quoi. C'est bah, c'est un peu ce que je voulais savoir en vous lisant cet article ce matin. Les amis, les bonnes choses ont une fin. C'est fini. C'est terminé. Hasta luego. My boy, la pampa. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, je vous abandonne 6 jours. Je vous abandonne 6 jours. 6 jours de vacances. No stream. No live. Ça ne m'est pas arrivé depuis. Je ne sais pas depuis quand. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai fait 6 jours sans live. L'été dernier, j'ai streamé tous les jours. Peut-être que Pâques 2020, le dernier Pâques, là, peut-être que je m'étais arrêté. Ou à février d'avant, peut-être. Voilà. Donc voilà. Donc bref, c'était il y a très longtemps. Alors, c'est pas parce que je suis fatigué. Je suis en pleine forme. Je vis ma meilleure vie. J'adore ma nouvelle vie de créateur de contenu. J'adore vous retrouver tous les jours, que ce soit pour de l'actu ou du gaming. J'adore les projets qu'on fait ensemble. Je suis pas fatigué, je suis en pleine forme. C'est juste que, bah, en fait, je pense aussi fort à ma famille, à mon épouse, à mes enfants. J'ai trop envie de passer vraiment du temps avec eux. Donc, je prends 6 jours. Donc, je pars cet après-midi là avec mon épouse en Franche-Comté. Je rejoins les enfants qui sont en vacances chez leur grand-mère. Et puis là, je chill, rien quoi. J'emmène mon Mac là pour bosser sur les projets, les trucs là. Donc il y a des petits mails, il y a des petits Teams de taf et tout, ouais, quasiment tous les jours. Mais il n'y a pas de stream, donc allez, on va dire il y aura 2-3 heures de boulot par jour, quoi. Max, max, max. Et donc la famille. Et puis on se retrouve. Je reviens mercredi prochain parce que j'avais un live jeudi finalement qui se fait pas à la PGW. Donc mais du coup je garde mon retour le mercredi prochain, comme ça on se retrouve mercredi soir en live pour du gaming. Je pense qu'on fera du Battlefield 6. Jeudi matin, il y aura une revue de presse. Jeudi soir, il y aura du gaming. Vendredi matin, il y aura une revue de presse. Attends. Ouais, c'est ça, ouais. Vendredi matin, il y aura une revue de presse. Vendredi soir, il y aura du gaming. Samedi matin, la famille serait peut-être pas rentrée. Du coup, je ferai peut-être une revue de presse. Ou alors du gaming. Le samedi 1er novembre, je serai en fin de journée à 18h30 sur la grande scène de la PGW, la Paris Games Week. Samedi 2, il y aura un Samplay. Je crois avec DFG. Avec Dr. Feelgood, avec DFG. Je crois. Voilà. Les amis de TikTok, je vous salue, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Un joli week-end pour ceux qui auront un week-end. Et puis, et merci. Merci parce que c'était un plaisir d'échanger avec vous et merci d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Hop! À bientôt les beaux gosses. Ciao, ciao! Amis de Twitch, à nous! Parce que nous, on va faire un raid, bien sûr. Voilà. Ça, c'est une fonctionnalité de Twitch qui est quand même hein, juste topissime. Qui est en live? Qui on va aller voir? Qui? À qui on donne de la force? Ouh, je sais
Monsieur,
qui. Bah, je sais. Je vois Kalina, je vois Catsup qui est en live. C'était notre invité hier dans MVP hier. J'adore Kalina, c'est une streameuse formidable. Voilà, elle nous a bluffé au GP Explorer avec son podium, sa deuxième place. Et puis elle est bluffante. Elle est jeune, mais elle a déjà fait tellement de choses. Voilà, elle est en stream IRL, j'ai l'impression, sur de l'escalade. Elle cut pas, non, elle monte, c'est bon. Sur de l'escalade. C'est génial en plus. Let's go. Alors, 4. Puis c'est pas souvent que je la vois en live parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes horaires. Donc on en profite. IRL, escalade avec l'ami 4. Merci les amis, merci pour tout. Pour la force. Pour le soutien. Pour être là, tout simplement. Prenez soin de vous. On va voir Kalina. Voilà. Et ça a l'air trop sympa en plus, là, dans une salle d'escalade. L'image a l'air super top. Elle est hyper sportive, c'est incroyable. Allez, merci encore. À très vite. Ciao, ciao.
Je pense que si tu fais ça, tu peux tout faire après.
Vas-y, bah je vais la vie de ma mère, je vais le faire.
fallait pas lui dire ça.
Ok, moi je pense en fait tu mets tous tes pieds là, tu as toutes les parties de là et tu mets juste tes mains là.
Ouais.
T'as capté?